Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Victoire obligatoire, quelle que soit la manière, selon le sélectionneur.
On peut disserter, il n'y a qu'une chose.
Son équipe n'a pas le droit à l'erreur.
C'est le résultat.
Encore faudrait-il pour cela qu'il commence à jouer au football, ce qui n'a pas vraiment été le cas.
Vous suivez Au bout du foot avec Malik Eudy et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h, sur monparisfm.com.
Salut à toutes et à tous, amis sportifs, amis du football, bien le bonsoir. Vous êtes en direct sur monparisfm.com, la radio, et monparisfm YouTube, tout simplement. C'est la première aujourd'hui de notre émission Au bout du foot en direct sur YouTube. Jason Lindor, partie technique, Léonard est partie technique, et notre ami Kali également, partie technique. Ensemble avec vous, les amis, pendant 90 minutes, nous allons parler foot. Essentiellement foot, 100% foot sur les ondes de Mon Paris FM. Et puis, si vous avez des amis, dites-leur tout simplement de se connecter via la page YouTube Mon Paris FM. Avec moi ce soir, l'ami Lucas. Salut Lucas.
Ça va Malik ?
Ça va et toi ? Bien ?
Super, beau week-end de foot.
Beau week-end de foot ? Ouais. Bah écoute, tu plantes le décor. Salut Abou !
Salut Malik !
Ça va aussi bien ?
Ça va pas, j'ai été traumatisé par Stéphane en début d'émission. Il a dit qu'il fallait que je revoie mon éducation et tout. Ça a parlé de mon père, moi je suis
c'est
pas
trop
bien.
Tard, c'est trop tard, c'est trop tard Abou.
Mais puisqu'il tient le micro, salut Stéphane !
Salut à vous, bah ça, moi je... Ça va ? Nickel, mais bon, je pense pas avoir vu un très beau week-end de foot, mais sinon ça va.
Bah tu vas nous dire ça dans quelques instants.
Heureusement, il n'y a pas que ça.
En tout cas, il y a Eladj qui est à côté de toi, je suis sûr qu'il va te contredire. Salut Eladj.
Salut Malik.
Bien la forme ?
Ça va, super.
Bon week-end de foot aussi ou pas ?
Ouais, bon week-end de foot pour moi, j'ai vu un beau match en PL entre Liverpool et Tottenham, moi ça...
Exactement.
Ouais, mais Liverpool, il n'y a plus rien à gagner quelque part.
Oui, mais quand même, il y a de bien finir quand même pour Jurgen Klopp, je pense que c'est important.
Bon, n'est-ce pas, bien finir sans être champion alors qu'on était à deux doigts, est-ce que c'est bien finir ?
On peut pas toujours finir champion, ils ont déjà pris des titres. Jurgen Klopp, sur son année, il a fait un travail remarquable, ce qu'on ne pourra pas lui enlever. Du coup, moi, je pense que finir en beauté quand même si c'est troisième, avec beaucoup de points, parce qu'on sait qu'en PL, le championnat, il est très, 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 très compétitif et c'est très difficile. Je pense que c'est quand même bien.
Et puis, j'ai mon premier ministre à côté de moi. Salut, Alex, l'homme du Barça. Ça va, Alex, la forme ou quoi ?
Ça va, Malik.
Bien, la forme.
La forme, je sais pas, toujours en dépression, mais...
Mais c'est bon, ça y est, ça fait un moment que le Barça est éliminé.
Bah, mais...
C'est la défaite d'hier encore.
On offre le titre au Real Madrid, donc là, c'est toujours compliqué, quoi.
Bah, hier, il y avait une petite remontada, là, encore, hier. Hein. J'ose même pas dire ce qu'elle a déjà dit dans le groupe. Hein. Il a utilisé un vocable, là, qui est tellement grossier que j'ose même pas le répéter à l'antenne.
Non, il n'était pas grossier. C'était clair, c'était français, quand même. C'est du bon français.
Merci, les gars, en tout cas, d'être là. Et tout de suite, maintenant, vous avez l'habitude, les amis... On va commencer cette émission avec votre 30 secondes chrono. Chacun de nos experts délivre son moment phare du football en seulement 30 secondes chrono. Un tour de table rapide et très passionnant, ma foi. C'est parti. Secondes chrono, on va commencer avec toi, mon cher Eladj.
Je savais, Malik, je sais pas pourquoi t'as commencé par moi, parce que toi j'étais.
Ah, t'as oublié ton 30 secondes?
Ouais, j'ai oublié mon 30 secondes, j'étais en train de le rechercher. Est-ce qu'on peut passer
on va passer avec Lucas alors.
Ok, moi je voulais parler du titre.
Du coup, on va reprogrammer le
30 secondes quand même,
parce que là, Eladj a bouffé les 10 secondes de Lucas là.
Je veux mon temps de parole, s'il vous plaît.
On va chez Lucas, 30 secondes pour toi.
Ouais, donc je disais que 3 ans après son dernier titre en Liga Sagres, le Sporting Portugal est à nouveau champion. C'est leur 20e titre. C'est la récompense du travail de Ruben Amorim, qui a mené ce club d'une main de maître depuis 4 ans, et de Victor Gyökeres, l'attaquant suédois, qui a mis 27 buts. Mais je veux quand même souligner le travail d'Amorim, qui est exceptionnel et qui, même s'il est courtisé un peu dans toute l'Europe, a annoncé qu'il resterait pour être deux fois champion d'affilée, ce qui n'est pas arrivé au Sporting depuis les années 50. Et je trouve que c'est un bon signal que les coachs restent, comme De Zerbi, comme Xabi Alonso. Ça me fait plaisir.
Est-ce que vous souhaitez réagir là-dessus, les amis ? Sinon, on bascule tout de suite avec Abou. 30 secondes chrono pour toi, mon cher Abou.
Ouais, Malik, au lendemain de la finale de la Ligue Europa, la presse italienne n'a pas caché son admiration pour la ferveur olympienne. La Gazzetta dello Sport évoquait une différence de taille avec Anfield. Je ne sais pas combien de stades en Europe ont une ambiance qui se rapproche même de celle du Vélodrome. Pour gagner ici dans une telle ambiance, on a le sentiment qu'il faut un véritable exploit. Anfield ressemble à une bibliothèque en comparaison, écrit un journaliste italien présent au stade. La Corriera della Sera parle d'une ambiance unique en Europe. La Nazione évoque de son côté l'enfer acoustique du Vélodrome. Gasperini, le coach de l'Atalanta, c'est un stade merveilleux, très beau. Le bruit, ce qu'il donne à son équipe, ça leur offre quelque chose de plus. Ce n'était pas facile dans cette atmosphère. Vive le stade Vélodrome et vive les ambiances folles comme ça.
Hey, c'est qui parle, le journaliste ou le supporter là?
C'est le journaliste neutre, Malik.
L'observateur. C'est bien l'observateur ça. Neutre. L'ambiance du stade Vélodrome, les amis, en fait, c'est pas nouveau. Hein.
Non, c'est pas nouveau, bien sûr. C'est une ambiance exceptionnelle, mais. La part de la presse italienne, c'est une façon aussi d'expliquer quasiment que l'Atalanta, leur équipe, a fait un exploit à Marseille en arrachant le match nul, en disant que c'est impossible à jouer dans cette ambiance, c'est très très compliqué. Donc, j'accorde pas énormément de sincérité.
Pour le coup, moi, Malik, j'étais au stade, j'étais présent de la première à la 95e minute au stade, j'étais en virage nord en plus. Observateurs, ils m'ont mis en virage, ils m'ont dit, faut que je regarde comment ça se passe là-bas.
Ouais.
J'étais en virage nord et vraiment, ça ne s'arrête pas. C'est juste incroyable. Ça s'est peut-être tué pendant 3 minutes quand ils ont ouvert le score, mais sinon, ça s'arrête pas. Et à un moment donné, tout le monde est unanime. À chaque fois que quelqu'un vient en Vélodrome, il dit ça, tu peux pas dire, Stéphane, que tu prends pas en compte ce que les journalistes italiens disent.
Je n'accorde aucun crédit à ce qu'ils disent, mais maintenant, j'accorde du crédit pour te calmer, mon ami.
Merci,
ce que moi, je pense,
on n'a même pas encore déroulé le sommaire
plusieurs fois au Vélodrome, que le Vélodrome et l'Olympique de Marseille est sans aucun doute, en tout cas déjà en France, la meilleure ambiance de France et très probablement une des meilleures en Europe. Mais faut-il encore avoir été
espérant qu'on aura cette même ambiance demain du côté du Parc des Princes. On va y revenir. Mon cher Alad, tu as retrouvé ton 30 secondes chrono?
J'ai retrouvé mon 30
secondes. Ouais, c'est parti.
Bah moi, c'était du côté de Stuttgart, qui ont battu le Bayern Munich encore ce week-end, qui enchaînent une très belle performance et franchement, qui font un très bon... qui peuvent même finir deuxième, qui reviennent à 2 points du Bayern et qui peuvent finir deuxième. Et ils sont assurés de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour cette équipe de Stuttgart, j'espère juste qu'ils arriveront à recruter un bon attaquant en sachant que Guirassy, je pense, partira la saison prochaine. Et j'espère en tout cas...
C'est quoi, t'as des infos à nous donner là-dessus ou quoi?
Non, j'espère... Non, il va partir. C'est assuré, il va partir. Ouais, mais peut-être à United. Il y a beaucoup de clubs qui le convoitisent, mais en tout cas, je voulais saluer leur parcours remarquable de cette année-là.
Merci, l'ami Eladj. Tout de suite et maintenant, le 30 secondes chrono de mon premier ministre, Alex.
Ouais, moi, dans mes 30 secondes chrono, j'aime bien parler des championnats un peu plus mineurs, on va dire. Et là, je voulais parler encore du championnat turc. Et Fenerbahçe, qui est deuxième actuellement, fait 0-0 contre Konyaspor. Et donc, du coup, c'est les espoirs de titre qui s'envolent petit à petit pour Fenerbahçe, qui vont jouer d'ailleurs contre Galatasaray dans 2 semaines. Et Galatasaray, qui peut faire une saison incroyable à 100 points s'ils remportent leurs 3 derniers matchs. Donc voilà, moi, j'ai hâte de voir le déroulé et la fin de... c'est le championnat.
Merci, cher Alex. Alors, les amis, le programme, il est tellement chargé qu'on va aller au pas de course tout de suite avec le sommaire.
Au sommaire d'Au bout du foot de ce 6 mai, le 30 secondes chrono. Chacun de nos experts délivre son moment phare du football en 30 secondes. Le journal du foot par Lucas. Un tour d'horizon complet des dernières actualités du monde du football. Analyse des demi-finales de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a-t-il flanché lors du match aller contre Dortmund? Quelles sont les attentes pour le match retour? Le Parc des Princes pourra-t-il être le théâtre d'une surprise? Nos experts partagent leur opinion. Avec une avance confortable, le Real Madrid peut-il déjà se considérer en finale? Ou est-ce que les Munichois de Thomas Tuchel renverseront-ils la vapeur? Rejoignez la discussion sur Au bout du foot. Focus également sur les demi-finales de la Ligue Europa. L'Olympique de Marseille a-t-il dépassé les attentes? L'Atalanta a-t-elle été surévaluée? Analyse du potentiel de l'Olympique de Marseille pour atteindre la finale lors du match retour. Également dans cette Europa League, le Bayer Leverkusen, invaincu, a dominé l'AS Roma. Assiste-t-on à l'émergence du futur champion d'Europe? La question est posée. La question au bout du foot, à l'approche de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs internationaux. Quel joueur pourrait être les surprises de cette sélection? Quel choix pour quel résultat?
Suite à la séparation entre le Stade de Reims et son entraîneur Will Steel, Habib Bey pourrait-il être le candidat idéal pour prendre la relève? Nous explorons les implications et les attentes autour de ce potentiel changement. Au bout du foot, commentaires, analyses, décryptage, pronostics, l'essentiel de tout le foot en 90 minutes. Bienvenue.
Merci, cher Jason, pour ce sommaire. Un sommaire riche, hein, vous l'aurez imaginé. On va enchaîner tout de suite avec notre ami Lucas. Lucas, c'est ton journal.
C'est mon journal.
Ah, tu dis quoi?
Aujourd'hui, je voudrais dire adieu à César Luis Menotti. Ancien footballeur et sélectionneur de l'Argentine, César Luis Menotti est décédé ce dimanche à l'âge de 85 ans. Vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux les hommages de Guardiola, Lionel Messi et d'autres gloires du football. C'est parce que Menotti était une authentique légende. Connu pour avoir remporté la première Coupe du Monde du football argentin en 1978, Menotti était beaucoup plus que ça. C'était un romantique, un passionné du jeu et un vrai rebelle. Après une carrière de footballeur assez anecdotique, passée entre l'Argentine, les États-Unis et le Brésil dans les années 60, c'est comme entraîneur qu'il va façonner sa légende. D'abord champion d'Argentine avec Huracán en 73, il prend la tête de la sélection argentine en 74. Loué pour la beauté du football que développent ses équipes, Menotti va aussi se faire des ennemis, notamment pour ne pas avoir sélectionné un jeune de 17 ans lors de la Coupe du Monde 78, un certain Diego Armando Maradona. La victoire lors de cette Coupe du Monde à domicile va lui apporter beaucoup de crédit, qu'il perdra suite à l'élimination de l'Argentine dès le premier tour du Mondial 82. Démis de ses fonctions, il part entraîner le FC Barcelone puis l'Atlético Madrid pour des résultats mitigés. Par la suite, il connaîtra des expériences dans les plus grands clubs argentins, mais aussi en Italie ou au Mexique, sans toutefois réussir à gagner de nouveaux trophées. Mais les titres, ce n'est pas forcément le plus important pour cet obsessionnel du jeu, qui voulait avant tout que ses équipes développent un football offensif et créatif. Une anecdote résume assez bien le personnage. En 72, alors que son Huracán mène 2-0 à la mi-temps d'un match de championnat, Menotti, peu satisfait du spectacle proposé, dit à ses joueurs « Si au bout de 15 minutes, vous jouez encore comme ça, c'est que je ne sers à rien dans ce groupe, donc je me lève, je m'en vais et je ne reviens plus. » En effet, Menotti fait partie de cette caste que l'on ne peut réduire à des chiffres ni à un palmarès. Menotti, c'est un style de rebelle, avec ses cheveux longs et sa cigarette au bec. C'était surtout un sympathisant communiste revendiqué, à une époque où la dictature militaire argentine ne se privait pas pour enlever, emprisonner ou tuer ses opposants. Menotti, c'est surtout un des influents penseurs du football, qui a servi d'exemple à des coachs comme Bielsa ou Guardiola, qui était d'ailleurs venu le consulter avant de commencer sa carrière d'entraîneur. Menotti, c'est enfin un esthète, qui a longtemps été opposé au très pragmatique Carlos Bilardo, qui n'avait foi que dans le résultat, un peu comme une opposition Mourinho-Guardiola dans les années 70-80. Bref, César Luis Menotti est mort le 5 mai 2024, mais son héritage, lui, est éternel.
Merci, cher Lucas. Stéphane, j'imagine que ça te fait réagir.
Un petit peu, non. C'est sûr que c'est quelqu'un qui est... Ça fait partie de ces entraîneurs qui pourraient plus exister, qui n'existent plus aujourd'hui, parce que sans les résultats, sans les...
Bielsa.
Voilà, qui a du mal.
Bielsa existe.
Qui a du mal, oui, mais il a eu beaucoup de mal, notamment à Marseille, à Leeds. Il a quoi, ça a bien marché, mais c'est quelqu'un qui surtout plus un inventeur du foot, un philosophe du foot, quelqu'un bien sûr d'exceptionnel qui a développé plein de choses, qui a mis plein de choses en place à son époque, mais qui aujourd'hui, c'est vrai, il y a peut-être encore quelques rares exceptions, mais aujourd'hui c'est quand même trop beaucoup la dynastie du résultat à tout prix, à court terme, et c'est aussi quelque chose qui a disparu aujourd'hui, malheureusement.
C'est vrai, mais Guardiola lui se définit comme un descendant de
Menotti, ouais, et de Bielsa aussi,
et comme Bielsa beaucoup, lui aussi se
voilà
se
exactement,
voit comme
exactement, c'est des gens qu'on laissait une trace incroyable. Maintenant, après, aujourd'hui, je dis aujourd'hui simplement ce que tu as décrit là, un entraîneur qui fait passer d'abord le beau jeu avant les résultats. Je pense qu'en 2024, ça a une durée de vie dans des clubs très très courte. Alors, faut peut-être le regretter, peut-être pas. Ça, chacun fera ce qu'il en vit, mais moi, c'est juste ce que je pense.
Merci les amis. Hein. Tout de suite et maintenant, on va rentrer dans la Ligue des Champions, la compétition des Ligues, justement. On va parler des matchs retour des demi-finales de la Ligue des Champions, avec notamment le Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund et puis le Real Madrid face au Bayern Munich. C'est parti. Alors les amis, est-ce que le Paris Saint-Germain, déjà on va parler du match aller rapidement, et puis on va se projeter ensuite sur le match qui arrive déjà demain. Est-ce que le Paris Saint-Germain a flanché tout simplement lors de son match aller, mon cher Abou?
flanché, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ils n'ont pas produit le match qui, selon moi, en tout cas, ils auraient dû produire. On annonçait en tout cas le PSG favori de cette double confrontation sur le match aller et le match retour. Malheureusement, on se retrouve face à une équipe qui, sur le match aller, n'arrive pas à gagner ce match, avec une première mi-temps qui est un non-sens. Autant la deuxième mi-temps, elle ressemble à du football, autant la première mi-temps, c'est vraiment un non-sens de la part des joueurs du Paris Saint-Germain. Donc flancher, ouais, elle a flanché sur 45 minutes sur 90. Et maintenant, pour parler de flanchement totalement, il faudra attendre la confrontation retour et voir ce que vont proposer les hommes de Lucien Riquet. Mais en tout cas, sur ce match aller, il y a un goût amer à la fin du match.
Eladj ?
Oui, bah pour moi, ils n'ont pas fait le taf. Hein. Pour moi, comme je disais la semaine dernière, ils devaient gagner aller-retour face à un Dortmund. Après, on a vu une très belle équipe de Dortmund, mais on pouvait s'y attendre. On a vu un Adeyemi et un Sancho très en forme. Très, très, très en forme. Je pense que ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas vus en forme, en tout cas de cette manière-là. Et un PSG, même si dans l'intensité, un peu, dans l'intensité, ça manquait un peu, efficacement aussi, notamment. Je repense aux occasions énormes loupées par Dembélé, par Fabien Ruiz, qui sont des tournants de match, même le poteau de Mbappé et le poteau de Hakimi, juste consécutivement. Je pense que c'est des tournants d'un match. Et ce qu'ils font.
Mais cela dit, les deux poteaux, si ça fait un but éventuellement, ça ne fait pas deux buts.
Oui, non, mais parce que...
J'entends à chaque fois dire on a fait deux poteaux. Non,
c'est pour ça que je dis consécutivement.
C'est sur la même action.
Ouais. Bah oui, c'est pour ça que je dis consécutivement, Malik. On comprend, consécutivement, ça veut dire ça s'est fait directement. S'il y en a un qui est rentré, c'est sûr que l'autre ne serait pas rentré.
Voilà.
Mais c'est pour dire, en tout cas, qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Et franchement, les plus grosses même, c'est les trois là que j'ai cités. Et voilà, franchement, pour moi, Lucho, il n'a pas fait un bon coaching. Voilà, aussi, il n'a pas fait un bon coaching. Il a vu un Fabien Ruiz un peu dedans. Franchement, Nuno Mendes, il n'était pas dedans du tout. Et je pense que tout ça fait partie de la gestion. Hein. Nuno Mendes, depuis qu'il est revenu de blessure, ok, on le préserve, on ne veut pas le faire jouer en Ligue 1, mais ça fait qu'il manque de rythme. Et dès que tu le lances dans un match de Ligue des Champions, bah, tout de suite, il se fait écraser par un joueur qui a l'habitude de jouer, et ça fait un moment qu'il est en train de jouer. Nuno Mendes, là, il revient d'une grosse blessure, faut qu'il joue aussi un peu, que ça soit même en Ligue 1, qu'il joue un peu. Ok, on peut pas éviter les blessures, c'est sûr. Ok, tu peux le faire jouer 60 minutes, 30 minutes, mais de là à ne pas le mettre directement dans le groupe, parce que c'est ce qu'on a vu récemment. Je pense que ça explique la mauvaise performance de Nuno Mendes. On a vu d'autres, Weyerzer, Emery, il était pas très bon. Voilà, franchement,
ça fait beaucoup de manque. Hein. Donc, est-ce qu'on peut dire justement que cette équipe du PSG a flanché, Alex ?
Non. Flanché, oui, au niveau auquel on les attend, mais finalement, même si la plupart des joueurs n'ont pas été au niveau, ils ont perdu seulement 1-0 à l'extérieur. Donc, au final, ils ont flanché sur ce match-là, oui, parce qu'il y a eu des occasions ratées. En fait, moi, j'ai pas envie de remettre en question encore une fois, parce que là, il y en a plein et je les vois venir. On va remettre en question tout le coaching de Luis Enrique, je sais pas trop quoi. Il y a juste eu des faillites un petit peu individuelles.
Ouais, mais quand il fait rentrer Colomoigny, on peut quand même s'arrêter là-dessus, non ?
Mais oui et non, parce que en fait, ça se joue sur des détails. La rentrée de Colomoigny, elle est clownesque, ça c'est sûr. Mais s'il avait marqué, on aurait dit. Il a bien fait de faire entrer Colomoigny. En fait, moi, le seul
avec
truc
les
que si je veux
on refait le monde.
C'est ça que je veux
dire. Avec les si on refait le monde. Là, on prend que ce qui est factuel. Excuse-moi de te couper.
Mais là,
on prend juste ce qui est factuel. Il a fait un mauvais coaching. Il a fait rentrer Colomoigny et il le fait rentrer à gauche. C'est pour ça que même quand je dis, par moment, je défends Colomoigny, je dis, ok, il fait des mauvaises performances, mais regardez où est-ce qu'il joue. Une fois, il va jouer à droite, une fois, il va jouer dans l'axe. Là, il a joué à gauche. Franchement. Comment tu veux être à l'aise ? Un joueur déjà qui a du mal à se retrouver. À chaque fois, on te rentre sur le terrain, on te fait jouer à un autre poste. Comment tu veux être performant ?
Je te dis, la vérité, pour moi, il n'y en a qu'un en partie qu'on doit incriminer sur ce match-là, c'est Kylian Mbappé, c'est tout.
Non,
en termes d'individualité, c'est lui.
C'est son avis.
Pour moi, c'est lui, parce qu'il y en a plein, ils ont crié sur Fabian Ruiz. J'ai vu des Fabian Ruiz, il aurait dû contrôler, je sais pas quoi. Les gens, ils disent n'importe quoi.
Mais qu'est-ce que tu reproches à Kylian Mbappé sur ce match ?
Mbappé, on le met numéro 9. Il refuse d'être à son poste de numéro 9. C'est pas Fabien Ruiz qui doit être à la récupération des centres, c'est Kylian Mbappé. C'est pas de la faute de Luis Enrique.
Tu mets Kylian Mbappé numéro 9.
C'est pas de la faute,
c'est qu'il est pas bon de la tête.
Sur l'action de Marquinhos, c'est pas lui qui fait. Sur l'action de Fabien Ruiz, c'est pas Kylian Mbappé qui fait le centre, c'est Marquinhos en une touche.
Mais attends, dans tous les cas,
je veux dire, c'est que
c'est 11. T'es un joueur professionnel. Fabien Ruiz, en fait, tu peux expliquer que Kylian Mbappé a mal joué, je le conçois, et ça, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ça n'a pas été le pire. Mais maintenant, on peut dire que Kylian Mbappé a mal joué, mais ça n'empêche pas l'autre. Fabien Ruiz est un joueur professionnel. Il se retrouve à moins de 3 mètres des cages. Une tête aussi
bien
facile.
Sûr, bien sûr qu'il
il doit la cadrer.
Alors c'est bien.
Il doit la cadrer.
Dans cette émission, c'est bien.
Il arrêter deux secondes.
Et Lag n'est pas très très fan de Fabien Ruiz. Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, Stéphane. Stéphane, d'abord, est-ce que tu penses que le PSG a flanché sur la phase aller?
Flanché, c'est pareil. Je dirais pareil qu'à vous. Le mot, je sais pas si c'est le mot flanché, mais en tout cas, a déçu et a raté son match. Et notamment, particulièrement, moi, je ne vais pas m'en prendre à, par exemple, particulièrement les trois joueurs offensifs. Les Merci. Trois joueurs offensifs, pour moi, ils ont été... moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Alexandre. Tout à fait d'accord. Hein. Ils ont été largement en dedans. Même Kylian Mbappé, je ne mettrai pas, pareil, le sujet dessus, parce que ça m'agace. Après Barcelone, le match aller, c'est tout le monde a tiré à boulet rouge sur Mbappé. Après ce match, c'est tout le monde tire à boulet rouge sur Mbappé. Il faudrait qu'il soit merveilleux. Mais effectivement, ça a été le premier à ne pas être bon. Maintenant, je peux juste apporter une explication, une analyse... tactique et technique. À
oh,
ce
attention,
qui s'est
attention.
Passé. Non, mais c'est vrai, je l'ai
attention.
Dit. Non, mais c'est rien.
Stéphane arrive avec une analyse tactique. Là.
Ça me paraît évident.
Ouais.
Pourquoi, moi, ce que je pense sérieusement, vous allez peut-être hurler, c'est qu'à une demi-heure de la fin ou à 25 minutes de la fin, quand il fait ses changements, Luis Enrique, il a surtout pas envie d'encaisser un autre but. Alors pourquoi il fait rentrer Kolo Muani à gauche et non pas Ramos, que tout le monde attendait Ramos dans l'axe et qui décale Mbappé à gauche? C'est qu'il a Nuno Mendes qui est en souffrance pour défendre. Je pense qu'il était prévu, si jamais Lucas Hernandez ne se blessait pas, que Beraldo le remplace pour la dernière demi-heure. Il est en souffrance pour défendre. Mbappé ne défend pas. Le côté droit de Dortmund, il est assez fort. Et il veut pas prendre le risque de mettre Ramos dans l'axe et de mettre Mbappé à gauche qui ne défend pas.
Non, plus, mais moi je peux te répondre. Moi je peux te dire aussi, comme on dit souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque.
Voilà, oui.
Bien évidemment. Si tu mets Mbappé à gauche, tu bloques aussi les offensives.
C'est votre façon. Moi je suis pas gaucher aussi. Je dis simplement.
Mets-t'en deux sur lui.
Et le gars ne défend
pas. Deux sur lui dès qu'il touche le ballon.
Pas tous ensemble.
Là tu parles quand ils ont le ballon.
On laisse Stéphane finir.
Moi je suis pas en train de vous dire si j'étais coach, je suis pas. Puis je fais confiance à toi, j'aurais fait la même chose. Je suis pas en train de vous dire ça. Je dis simplement, je pense que c'est comme ça qu'il faut analyser le match. Quant à Fabien Ruiz, effectivement, les reproches, moi je dirais toujours une chose, c'est que Fabien Ruiz, son, entre guillemets, je trouve qu'il a été pas mal lynché par plusieurs médias après ce match-là. Son boulot avant tout, c'est de travailler au milieu de terrain, c'est pas de marquer des buts.
Ce qu'il ne fait pas. Voilà. Ce qu'il ne fait pas. Voilà. Du coup, alors qu'est-ce qu'il fait?
Il a été moins. Il a pas
qu'est-ce
été.
Qu'est-ce qu'il fait?
Nul,
qu'est-ce qu'il fait?
Moi, pour moi, c'est pas un argument qui
Arrête.
Tient. Hein. Parce que là, on parle de lui et on manquait cette occasion. Non, mais parce qu'il était en situation de marquer.
Non, mais d'accord.
C'est aussi pour ça qu'on parle de son raté. Il n'était pas dans le rond central quand il a manqué cette action.
Et Dembélé, à ce moment-là, Dembélé, c'est quand même 10 fois pire.
Mais bien sûr que Dembélé, c'est bien sûr. Mais personne,
mais tout seul.
C'est 10 fois pire. Attends,
moi je suis le premier à le dire ici et vous m'avez tout le temps dit non,
mais
Hakimi, Malik, Dembélé.
Hakimi, moi, c'est pareil. Mbappé met la balle sur le poteau, mais quand elle revient, Hakimi, on peut pas lui en vouloir.
C'est un défenseur.
Hakimi, il se retrouve avec un ballon qui arrive comme ça dans les 18. Moi, je peux pas lui en vouloir. Ce que je veux, je lui en voudrais s'il se faisait.
Mais personne n'a décrit Hakimi.
Non, je sais, mais on pourrait. Et pourquoi? On pourrait. Moi, je suis désolé,
Stéphane.
Non, mais ce que je veux dire, attends, je termine. Critiquer, je suis pas en train de dire Fabien Ruiz est bon. Critique Fabien Ruiz, mais juste simplement, n'utilise pas le fait qu'il ait raté un but facile de la tête pour le critiquer, parce que c'est pas son domaine.
Mais
de
j'ai pas entendu ça pour le critiquer.
Non, mais
Stéphane,
là, à l'instant,
il y a
un
podcast. J'attends
non,
pas
mais
que
à
ça.
L'instant.
On va,
mais attends,
on va laisser la parole à Lucas et ensuite on reviendra vers vous, Elad et Stéphane notamment. Lucas.
Déjà, moi, je pense que Paris se voyait beaucoup trop beau avant le match, et j'ai peur que d'ailleurs Paris se voit trop beau avant le match retour aussi. Dortmund, ça reste une équipe sérieuse. Il y a quand même, on sait que dans le foot moderne, le combat du milieu de terrain, c'est ce qui est très souvent décisif. Et ils ont montré qu'avec Sabitzer et Brandt notamment, ils avaient absolument rien à envier au milieu du PSG. Ceci étant dit, je pense aussi que s'il faut critiquer Fabien Ruiz, c'est pas pour son raté, c'est parce qu'il a fait un match qui était ridicule, comme souvent malheureusement, et que Luis Enrique le laisse 90 minutes sur la pelouse. Il y a aussi plusieurs solutions, je l'ai dit plusieurs fois dans l'émission, ça n'est Paris à un banc, Paris a des possibilités de changement, et je regrette vraiment que quelqu'un ne soit pas rentré pour enlever Fabien Ruiz de l'équation. Et sinon, ouais, c'est quand même une faillite collective, c'est dommage, et ça ne rend pas forcément optimiste pour la suite.
La suite, justement, tu en dis, mon ami Lucas, on va parler de cette suite qui arrive déjà demain, mardi, le match retour justement face au Borussia. Les amis, quelles sont vos attentes?
Je vais commencer. Moi, je vais, vous dire pourquoi je suis très optimiste. Enfin, que je suis optimiste, parce que très optimiste serait forcé, mais que je suis optimiste pour Paris. C'est qu'ils ont fait.
Toi, t'as vu en fait Paris Saint-Germain battre le Barça, ça y est, t'es devenu supporter
parisien
maintenant.
Non, parce que si vous avez suivi mes podcasts, depuis le début, j'avais dit que Paris allait se qualifier face au Barça. Mais bref, tout ça pour dire que, en fait, le match aller, Paris, on est tous d'accord pour dire qu'ils sont en grande partie passés à côté de leur match. Donc, alors que normalement, ils doivent être à un niveau supérieur de Dortmund. Et on est tous d'accord pour dire aussi que Dortmund a fait un bon match. Donc, si, à partir de ce moment-là, si Paris se met à son niveau, je pense qu'il n'y a pas photo sur Dortmund. Donc, c'est pour ça qu'en fait, moi, je suis plutôt optimiste.
Moi, j'ai un bémol.
Parce que pour moi, ils ne peuvent pas faire pire, en fait. Ce que je veux dire.
Non, moi, j'ai un bémol. Je ne sais pas si c'est parce que nous, on est assis ici en plein Paris qu'on dit ça. Mais je vous ai même posé la question dans le groupe. Les amis, je ne sais pas, quand tu enlèves Kylian Mbappé, joueur vraiment de classe mondiale, il n'y a rien à dire. Mais tu prends l'effectif parisien, l'effectif du Borussia, tu les prends un par un. Je ne suis pas sûr que l'effectif parisien au-dessus, individuellement parlant, de l'effectif du Borussia Dortmund. Là, moi, je ne suis pas sûr.
On va être cinq ensemble à te dire.
Non, mais j'ai l'impression...
Deux joueurs ou trois joueurs, grand maximum de Dortmund qui jouent.
Stéphane, je finis. En fait, j'ai l'impression que vous, ce qui vous...
Tous les cinq.
Non, mais ce qui vous blague un peu, je pense, c'est peut-être le côté packaging du Paris Saint-Germain, le côté glamour, c'est Paris, c'est la capitale,
On a ici un supporter de Barcelone. Un supporter de
nôtre
qui aime bien, on va dire, qui apprécie plus l'OM que les autres.
Mais il l'a déjà dit, le podcast.
Est-ce que ici, d'après vous, combien de joueurs
mais c'est mon avis, les amis, vous n'allez pas me faire changer d'avis.
Non, mais c'est pour la personne qui écoute, quoi. Pour les gens qui écoutent, qu'ils aient quand même un avis un peu sensé, un peu expert, quoi. Il y a peut-être sur ce match, oui. Peut-être sur ce match, effectivement, mais en général sur l'effectif de Dortmund, on en a beaucoup parlé entre nous sur les réseaux. T'as quoi, grand maximum trois joueurs.
Donnarumma, c'est comme ça. Moi, j'en vois trois. Je vois Schlotterbeck,
c'est plus fort. Ça veut dire
Sancho et Sabitzer.
Dembélé a combien de buts?
Moi, j'en.
Non, mais regarde un peu les choses en face aussi,
mais
les amis.
Non, mais il joue. Mais non, là, Malik, on peut pas réduire deux joueurs.
Il y a trois buts aussi à Dembélé.
C'est la même chose. Et ils n'ont pas un joueur dans leur équipe qui met 50 buts.
On se donne rendez-vous demain soir, les amis.
Non,
quelles sont vos attentes? C'était ça la question initiale. Quelles sont vos attentes? J'ai ouvert une parenthèse.
Moi, j'ai qu'une attente. C'est voir Kylian Mbappé à son niveau. C'est tout. Faire un match digne de lui pour son dernier match de Ligue des Champions. Et dans ce cas-là, ça va dérouler tout seul. Au parc. Espérons au parc.
Des attentes par rapport à ce match retour?
Non, moi, j'ai pas d'attente particulière par rapport à ce match. Moi, je pense que ça va surtout... Moi, en fait, mon attente, elle est pas tant sur les joueurs et sur le match en lui-même que sur les tribunes du Parc des Princes. Je pense que ça va être incroyable. Ça fait plus de 20 ans que le PSG n'a pas accueilli une demi-finale de Coupe d'Europe dans son stade. Parce qu'on le rappelle, quand ils ont joué la demi-finale en 2020, c'était la saison Covid, donc il n'y avait pas de public. Donc moi, j'attends du stade du Parc des Princes qu'il fasse du bruit, qu'il mette de l'ambiance. Et sur le match en lui-même, j'ai pas d'attente particulière. Paris doit juste être à son niveau. C'est juste ça mon attente.
T'es en train de dire qu'il faut que le Paris Saint-Germain joue au Vélodrome, là. C'est ce que tu es en train de nous dire.
Non,
si je m'en tiens à ton 30 secondes
c'est
chrono.
Trop puissant pour eux, le Parc des Princes, c'est bien. Mais... Mais non, juste qu'ils soient à leur niveau et que Kylian Mbappé aussi soit à son niveau. Si Kylian Mbappé est à son niveau et que le Paris Saint-Germain est à son niveau, il n'y a aucun problème face à cette équipe de Dortmund, même si je pense que le Paris Saint-Germain va être éliminé.
Ils sont en train de négocier, juste, je me portais, ils sont en train de négocier un potentiel envahissement de terrain.
Moi, c'est ça qui m'inquiète.
Voilà. Mais non, mais dans les règles.
Oui, non, mais moi,
non, mais j'ai pas compris.
Si Paris se qualifie,
le club prévoit d'envahir le terrain,
ils sont en train de le négocier
mais
avec.
Pour fêter la qualification. Mais moi, c'est tout ce qui m'inquiète. C'est les déclarations de Luis Enrique. Quand un supporter lui demande qu'est-ce qui va se passer demain, il dit
on va gagner Mbappé.
Moi, c'est tout ça qui m'inquiète. J'ai l'impression que le PSG est persuadé que ça va le faire.
Tout le monde est sûr qu'il va y avoir 4-0. J'avoue juste que t'es pas le premier à dire ça. Je suis mort de rire par les gens qui disent ça. Parce que jusqu'à maintenant, nous, on en a ceux qui, en tout cas, suivent, apprécient, sont très neutres, observent, mais apprécient un peu plus le PSG que les autres clubs. On a tout le temps entendu, chaque année, on va pas y arriver, on va perdre. Et on a vanté, notamment avant le retour à Barcelone, Luis Enrique a dit, c'est jamais arrivé dans l'histoire du club qu'on perde le match aller, qu'on se qualifie, et ben on va le faire demain. Il l'a dit, il s'est mouillé. Donc, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est pas parce qu'il le dit que ça va arriver, mais c'est pour ça que... et c'est pas pour ça qu'on aurait pu dire ah, il est trop confiant, ils vont se prendre une valise à Barcelone et tout ça. Simplement, c'est la bénédiction de cette année quand tu as suivi le club du PSG depuis notamment le rachat des Qataris, d'avoir un coach qui est comme ça, qui est un grand entraîneur, qui a confiance en lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise d'autre comme message ?
Que le PSG ne se voit pas trop beau avant ce match. C'est tout ce que moi j'ai à dire, Stéphane. Ils se sont vus trop beaux à l'aller, on a vu comment ça s'est passé.
Les joueurs.
Que le Paris Saint-Germain ne se voit pas trop beau avant le match.
Je leur souhaite
de se qualifier, mais qu'ils ne se voient pas trop
beaux. Ils ne sont pas vus trop beaux.
Pour moi, c'est les médias qui les voient trop beaux, ce n'est pas le club.
Mbappé l'a parlé aussi.
Ils sont supérieurs à bout, tu ne peux pas leur reprocher. D'être supérieur à
c'est ça. Ouais, mais attendez, il joue une demi-finale de Ligue des Champions.
C'est ça.
Vous voulez qu'ils disent quoi ?
Ils disent, on va jouer le maximum,
il y a des gens qui regardent et qui leur posent des questions.
Mais sinon, mais c'est pas une mentalité. Putain, mais
c'est quand même mieux qu'ils disent on va gagner plutôt qu'on va perdre.
Mais bien sûr,
on va rappeler les vidéos.
On l'a vu à Barcelone.
C'est inaudible. Tu l'as vu là ? Tu te rappelles des vidéos de
Lucas, c'est inaudible. Ils ont perdu lamentablement.
T'as vu les vidéos Thomas Müller ? Non, mais je ne dis pas. Les vidéos Thomas Müller à l'époque où le PSG recevait le Bayern. Et ben voilà, et il gagnait,
ils ont perdu aussi. Thomas Müller, quand il fait allez PSG, il se prend une humiliation avec un but de Marquinhos magnifique. Neymar qui les éclate aller-retour.
Mais t'as toujours le risque de perdre.
L'excès de confiance, l'arrogance de Paris, elle est pas rassurante. Je suis désolé.
Je suis
confiant, on va tout donner, on a les armes pour le faire. T'arrives avec des arguments, mais dire on va le faire, on va gagner, sans rien dire derrière. Ça peut être un excès de confiance.
Moi je suis désolé,
je ne voudrais pas l'avoir dit.
Mais moi je suis désolé, mais bien sûr, bien évidemment que moi je vais pas leur en vouloir. Comme Thomas Tuchel qui a dit à la il a dit Serge Gnabry, il va marquer. Je sais pas pourquoi, mais il va marquer. Serge Gnabry n'a pas marqué. Et quand les journalistes ont posé la question à Carlo Ancelotti, il a dit quoi ? Il a dit Vinicius, il va marquer. Moi aussi, je pense que Vinicius, il va marquer. Vinicius, il a mis doublé. Ouais. Bah, vous voyez ? Est-ce que Tourelle est passé pour un con ?
Non.
Pas vraiment. La plupart du temps, c'est un jeu. Ça se fait partout, dans tous les pays. Faut pas commencer. Maintenant, même si demain le PSG il perd, c'est normal. À l'aller, quand il a dit on va gagner à l'aller, on va se qualifier. Et ça n'a pas été. Qui l'a recensé après ? Il l'avait prédit. Qui l'a dit ? Personne. Faut arrêter
et
de
qu'est-ce jouer. Qu'il va dire,
il est bien sûr qu'il va dire qu'on va gagner. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise d'autre ?
De toute façon,
il ne retiendra pas ça. Si Paris perd, tu le retiendras pas, franchement.
Non. Parce qu'il a dit ça, pas parce qu'il a dit ça. Je leur en voudrais parce qu'ils sont au-dessus, parce qu'ils doivent gagner.
Ça peut traduire un excès de confiance, etc. Non, de pas donner assez.
Pour moi, c'est pas un excès de confiance. Pour moi, c'est juste une prise de confiance où. Logiquement, c'est entre guillemets,
pendant 10 ans, on a dit pendant 10 ans les adversaires, on est là, ils sont meilleurs, ça
mais non,
va être
personne
dur.
N'a jamais bah dit si, ça à Paris. Ça fait 10 ans qu'il y a les excès d'orgueil à Paris.
Non, pas du tout.
Mais bien sûr que si,
contre Chelsea, il n'y en a pas eu. Contre le Barça, il n'y en a pas eu. Contre le Bayern, il n'y en a pas eu. Contre le Real, il n'y en a pas eu. Tu vois ce que je veux dire?
Il n'y en a pas eu.
Non, mais ça, c'est les gros matchs. Contre les équipes niveau Dortmund, il y a eu beaucoup.
Mais en attendant, cite-moi un match où Paris s'est fait sortir contre une équipe plus faible.
Avant le match retour, par exemple.
Les amis, il y a des discussions croisées là, ça sert à rien.
Avant le match retour. Dembaba est sur le qui élimine le PSG alors que Paris se voyait au-dessus. Il y a eu plein d'exemples comme ça.
Ils se voyaient peut-être au-dessus, mais c'était pas au-dessus.
Donc ça peut arriver demain aussi.
Non, mais c'est pas pareil.
Et il l'a dit, Blanc, il a dit on est plus fort qu'on va gagner.
Je sais plus.
Ah, bah moi je suis sûr que.
En tout cas, l'excès de confiance, ça existe. Et attention à Paris, ils sont supérieurs. Moi je suis en désaccord avec ce qu'a dit Malik. Effectivement, Paris a un effectif qui est supérieur au PSG. Ils doivent se qualifier. Mais de dire comme ça, on va se qualifier de façon péremptoire, pour moi, c'est pas forcément productif.
Je pense que la confiance, 80% des coachs te diront. La confiance est une valeur essentielle
mais
chez
la confiance,
des
c'est
chez
pas la
sportifs.
Méthode couée. Tu vois
chez
ce que
des
je veux
sportifs,
dire
c'est essentiel.
Tu peux la garder pour toi,
non ? Je dis simplement, non.
T'es obligé de remotiver l'adversaire.
Moi, je dis juste que
tu te motives toi-même aussi avant.
Non, mais tu motives tes troupes en interne. Mais tu motives pas l'adversaire avec des déclarations officielles.
Même les supporters, faut que les supporters, quand ils vont au parc, faut qu'ils y croient. Ils vont là-bas. Ils vont dire, on va gagner. Regarde, ils disent tous, on va gagner.
Balerdi avant le match de jeudi, il a dit on va aller là-bas pour gagner.
Mais c'est pas parce que Balerdi a dit ça
qu'il a raison. Il a raison. Les grands champions ont raison de dire ça.
Il y a la communication, en interne pour manager ses troupes et tout ça. Il y a pas de souci. Après il y a la communication officielle. Il y a quelque chose.
Mbappé dit beaucoup. Je vais assumer. Mais Mbappé en ce moment il assume pas beaucoup. C'est quand même beaucoup de matchs ratés.
Ça c'est un joueur. Ça n'a rien à voir. Un joueur il a pas tout un effectif derrière lui.
Mbappé il parle très peu dans la presse. Il a parlé cette semaine pour dire on va se qualifié de façon très très sûre de lui alors qu'il se met beaucoup la pression
mais attends.
Alors que ses performances
Mais comme il a dit, il doit pas se cacher. Là, il dit on doit gagner, mais demain Mbappé peut être décisif. Si, mais okay, attends, mais laisse-moi terminer. Là, au retour, Mbappé peut être décisif. Si.
J'espère qu'il
sera. C'est un joueur, s'il dit aujourd'hui on va gagner, on gagne. Il est de bonne humeur, il t'envoie une frappe à 30 mètres. Non mais le gardien, il bouge pas.
Sûr,
non mais s'il veut décider d'un match, il met un doublé, un triplé.
Voilà, moi c'est complètement...
Il gagne.
Les amis, il va falloir qu'on avance quand même malgré tout. Non, le Paris Saint-Germain, ça arrive déjà dès demain. Est-ce que vous avez des idées comme ça au niveau des compositions d'équipe? Ce qui est enlevé selon vous?
Stéphane, ne me parle pas de Beraldo.
Par rapport au 11 de départ, sachant que Hernandez est blessé, donc forfait.
Moi, je peux juste vous donner des informations plus que des idées, des envies. Que ça sera
le quotidien du sport.fr, s'il vous plaît. Monsieur Desenclos Stéphane.
À 99,9%, c'est donc Lucas Beraldo qui va jouer dans l'axe de la défense.
À la place donc de
Hernandez, hein, ça y va pas. Ce que appellent certains observateurs. Qui met Danilo, ça va être lui qui va jouer. Je précise.
Moi, j'ai milité toujours pour Danilo au milieu de terrain.
Et pour l'instant, à 99% aussi de chance, c'est le même trio d'attaque qui va débuter. Barcola, Mbappé, Dembélé.
Donc, ça veut dire que s'il y a Barcola, donc Mbappé toujours dans l'axe.
Voilà. Et avec la petite, mais c'est du 75%. Pour que ça soit Fabien de Ruiz qui débute, et il y a 25% que ça soit Kanginli qui soit plutôt aligné à la place de Fabien de Ruiz. Ça, c'est juste de l'information de ce qui ressort.
Du coup, il alignerait la même équipe qu'à l'aller, avec à la seule différence Lucas Beraldo qui jouera à la place de
Voilà, ça serait ça qui est terminé. Et non, il y a un petit.
C'est ce qu'a dit l'équipe ce matin aussi.
Ils ont dit ça, l'équipe.
L'équipe a dit ça ce matin.
Mais Zaïre Emery n'est pas très en forme, il sera titularisé malgré tout.
Voilà, comme peut-être même Fabien de Ruiz, donc encore. Alors que c'est vrai que je crois 9 personnes sur 10, quoi. Il y a les doutes restés pour tout le monde et pour les observateurs sur la place de numéro 4, effectivement, Danilo ou Beraldo, de défenseur central, le milieu, Kanginli ou Fabien de Ruiz, et éventuellement un préparé devant, Gonçalo Ramos. D'ailleurs, en conférence de presse, là, quand il a été, pour moi en tout cas, avant même que j'ai ces informations en fin de journée, à sa conférence de presse, j'avais un peu compris quand les journalistes lui ont demandé est-ce que Gonçalo Ramos a une chance d'être titulaire demain. Il a expliqué que, en gros, entre les lignes, qu'il y avait des joueurs qui étaient très surprenants et très intéressants quand ils rentraient en jeu, mais qu'ils demandaient aussi beaucoup de choses aux attaquants. Voilà.
Elle était d'accord avec cette probable composition.
C'est pas ma compo, hein, je précise.
Probable composition.
C'est les infos que j'ai.
Je suis pas d'accord du tout.
Qu'est-ce qui te...
Beraldo. Moi, j'explique, en fait. Sans Beraldo demain, j'ai une confiance à 99,9% que le PSG se qualifie. Vraiment. Avec Beraldo sur le terrain, c'est du 50-50.
Attention, imagine Beraldo, non. C'est lui qui...
Moi, je te dis, selon moi.
Imagine Beraldo faire un doublé de Beraldo demain.
C'est pas son travail.
Et là, tu viens plus
Si je peux en placer, juste pour revenir là-dessus. Moi, je suis d'accord, je rejoins les incertitudes sur Beraldo, mais quand tu vois la saison que fait Danilo Pereira, alors que je l'aime beaucoup, franchement, ça serait pas plus rassurant.
Moi, je te dis en tout cas.
Mais Danilo, tu le mets au milieu de terrain pour apporter un peu de
central maintenant, c'est plus une question.
Je réitère, si je peux aller jusqu'au bout, je réitère. Pour moi, c'est du 50-50 si Beraldo joue demain. Beraldo est le type de joueur qui peut nous causer un pénalty à la 90e minute plus 3 minutes et nous faire éliminer. Beraldo est un joueur demain qui peut nous prendre un carton rouge dès la première mi-temps et on se retrouve à 10. Demain, Beraldo, j'ai vraiment peur. Quand je parle de Beraldo, j'ai vraiment peur. Je l'ai vu en direct. Je l'ai vu jouer sous mes yeux. C'était une catastrophe. Vraiment. Et depuis, Beraldo ne me rassure pas.
Laisse-le s'acclimater aussi.
Mais il n'y a pas de souci, je le laisse s'acclimater. Demain, ça se peut, Beraldo sera l'un des plus grands défenseurs du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça n'est pas le joueur qu'il nous faut. Demain, je préfère prendre. Ok, il est peut-être plus catastrophique en ce moment, Danilo Pereira. Mais Danilo Pereira est un joueur d'expérience où je pense que tu le mets avec quelqu'un serein de Marquinhos au défenseur central. J'ai plus confiance que Beraldo. Beraldo n'a pas de cerveau. Il n'a pas de cerveau. Non, mais réellement, il court sur le terrain bêtement. Non, mais excusez-moi, mais il court sur le terrain bêtement. Il court seulement pour courir.
Lucas,
je rejoins ce qu'a dit Elad sur l'inquiétude vis-à-vis de Beraldo. On l'a vu notamment en match aller contre le Barça. Oui, il voulait absolument suivre Lewandowski, que Lewandowski gagnait tous les duels et qu'en fait on se retrouvait derrière en situation à 3 derrière.
Mais s'il respectait les consignes tout simplement.
Peut-être, mais dans ce cas-là, il faut bien l'anticiper. D'ailleurs, Marquinhos a fait un peu la même chose au retour, sauf qu'il anticipait mieux. Il a peut-être des meilleures qualités d'anticipation et ça passait beaucoup mieux. Et effectivement, tu arrives à jouer beaucoup plus haut. Avec Beraldo, visiblement, on a du mal à jouer comme ça. Là où je rejoins pas Elad, ce que j'ai dit, c'est que pour moi, ni Danilo Pereira, ni même Skriniar n'offrent plus de garanties. Danilo, il me déçoit beaucoup cette année. J'aime le joueur qu'il est. Il était très sûr. Il nous a dépanné beaucoup, notamment l'an dernier. Mais là, cette année, c'est quand même une équipe très, très compliquée. On l'a vu encore contre le Havre, où il provoque un pénalty qui est ridicule.
Il y a deux matchs, deux buts contre lui.
Non, il n'y a pas de but contre lui.
Le pénalty, en tout cas,
le but juste avant, c'est Beraldo. non, mais le but juste avant, c'est Beraldo. Il arrive, il lui laisse 5 mètres. Le joueur, il est dans la surface. Il met une talonnade. Qu'est-ce que tu veux que Danilo fasse? Il met son pied.
Je suis d'accord.
Danilo, il met son pied. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Non, mais faut arrêter. C'est Beraldo le
plus globalement, que ce soit Skriniar, Danilo, Beraldo.
On a tous compris.
Les trois ne sont pas.
Ils devront jouer demain.
Exactement. Ils sont pas rassurants. Moi, je le rejoins. Ils sont pas rassurants. Après, il y a pas forcément mieux que Beraldo pour moi. Il est gaucher, etc. Je pense que Enrique, il y a une certaine cohérence pour lui de le faire démarrer. Mais c'est vrai que c'est pas rassurant, Beraldo. Et Fabián Ruiz. Je préférais qu'Anguigny aussi, il me rassure pas.
À bout. Composition d'équipe du PSG pour demain, tu vois
moi,
quoi?
Moi, j'espère que ce sera Beraldo et Fabián Ruiz. C'est des joueurs en qui j'ai extrêmement confiance. C'est deux joueurs que
je
trouve très bien.
Je sais pas pourquoi.
C'est du troll, là. C'est du troll. C'est un troll.
Pourquoi vous rigolez? Moi, c'est deux joueurs que je trouve extrêmement talentueux. Fabián Ruiz, moi, je crois en ce ressuscitement demain. Je pense que c'est un joueur qui demain va faire extrêmement de bien. C'est un joueur qui va faire changer David Elad. Je pense Beraldo, pareil. Beraldo, moi, c'est un joueur vraiment que j'affectionne. J'avais aimé particulièrement son match contre l'Olympique de Marseille quand le PSG nous ont fait très mal. Quand on fait très mal à l'Olympique de Marseille.
On n'a pas besoin de lui pour vous battre. On n'a pas besoin de lui pour les battre quand même. Ça,
donc,
c'est
non, moi, j'espère que demain. Lucien Riquet sera rationnel, j'espère qu'il ira pas dans ses trucs parce que lui aussi c'est un coach assez arrogant, un peu sûr de lui et qui aime bien faire n'importe quoi, mais j'espère que demain il aura la tête froide, et la tête froide c'est de mettre Beraldo et de mettre Fabián Ruiz. Si vous m'écoutez monsieur Lucien Riquet, je milite pour ça, j'espère que la France enverra le PSG en finale de Ligue des Champions, on en a besoin pour lundi chez UEFA.
Alex, toi qui connais bien Lucien Riquet, monsieur championnat espagnol, tu penses qu'il va faire quoi demain?
Moi je pense qu'il va mettre Beraldo, et pour l'équilibre de l'équipe, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il devrait mettre Danilo au milieu de terrain avec Fabián Ruiz dans la continuité et on sort Fabián Ruiz, j'ai dit n'importe quoi, et on met Vitinha et Zaïre Emery. Et moi je veux surtout pas voir Colomoini, il doit pas mettre un pied sur le terrain demain, mais vraiment pas un pied.
Moi je suis pas d'accord.
Je l'ai pas trouvé si catastrophique que ça.
Il perd 12 ballons.
Mais non, il fait des bonnes choses, il remonte la balle,
honnêtement là son entrée
est
catastrophique. En fait, il a pas gagné un duel physiquement.
Là où t'es pas juste, c'est que tu décris Beraldo et tu souhaites que Colomoini fasse partie du 11
Non, mais absolument pas.
Là, c'est pas juste.
Non, mais attends, à quel moment j'ai dit ça?
Si on regarde.
À quel moment j'ai dit ça?
Il a jamais dit ça.
Non, mais Alex, à quel moment j'ai dit ça? Non, mais
c'est Lucas qui vient me dire.
Non, mais moi, il y a un truc qui me surprend juste, Alexandre, si on parle de compo, celle que tu as donnée. Tu trouves que, par exemple, dans l'état actuel, après des changements que tu veux faire, Danilo, il est mieux en 6 aujourd'hui que Ugarte, par exemple?
Mais
non, mais juste réponds-moi, parce que t'as dit je mets Danilo en sentinelle,
non,
je mets Vitinha et...
Il a dit juste réponds-moi.
Sur moi, surtout. je préférais mettre déjà sortir Ruiz et soit Danilo, soit Ugarte. Après, moi, je suis pas à l'entraînement
mais
de,
c'est quand même pas du tout les mêmes joueurs.
Non, mais je suis d'accord avec toi, mais pour moi, t'as besoin d'un mec comme ça en 6 qui serait capable de rester en sentinelle, garder des ballons, un peu orienter le tempo du match et
surtout
avoir 2-8 avec un Zaïre Emery dans l'impact et un Vitinha dans l'organisation. Donc en fait, je suis pas à l'entraînement de Paris, je sais pas qui met les chasubles et qui sera titulaire le lendemain, mais en tout cas, pour moi, Fabián Ruiz, il doit dégager, c'est simple, et tu mets soit Danilo, soit Ugarte, celui qui est le plus en forme, celui qui a le mieux joué pendant les entraînements, et tu mets un des deux. Voilà,
merci Alex, on va basculer tout de suite et maintenant dans la seconde demi-finale.
Et moi,
l'équipe de notre ami Stéphane Desanclos, le Real Madrid, sera opposée donc au Bayern Munich. Stéphane, le match retour s'annonce assez, on va dire, ouvert.
Bah, tout à fait, j'étais surpris quand tout à l'heure dans la bande-annonce, tu disais que le Real avait une avance assez large. Je pense que le match retour s'annonce très, très, très compliqué pour les deux équipes. Et je pense quand même que, même si notre ami Thomas Tuchel va dire en presse, j'ai pas vu la conférence de presse de cet après-midi, que ça va être très compliqué, il va quand même dire qu'ils vont gagner, qu'ils vont se qualifier à Madrid. Quoi. Il ne va pas dire on verra, si on a une petite chance, on va essayer, tout ça. Je ne pense pas. Il va dire on va gagner à Madrid. Et c'est ce qu'il a d'ailleurs déjà dit dès la fin du match. On aurait mérité de gagner. Souvent, même, il dit ça, alors que ce n'est pas forcément la vérité. Donc je pense que ça va être très compliqué. Ça va être, mais ça va être en tout cas un match à regarder. Moi, je vois bien encore une fois une séance de tir au but.
À noter que le Bayern Munich a perdu dans la Bundesliga.
Oui, j'ai pas vu la compo, mais à mon avis.
Ce week-end. Non, mais c'était une compo qui.
Ouais, quasi. Et Rafael Guerrero s'est blessé en plus. Je sais pas s'il sera là.
Ils étaient tous là, Harry Kane et tout le monde, Gnabry et tout ça. Le Roy Sané.
Par contre, pour revenir sur Dortmund,
les buts, Davis,
Dortmund, il n'y avait qu'un seul joueur.
Il
n'y
a pas Mécano qui a repris, justement.
Il n'y avait qu'un seul joueur à Dortmund qui a joué, c'est le gardien de but. Tous les 10 autres joueurs qu'il a mis, tourner, c'était 10 remplaçants.
Et avec ça, ils ont gagné, atomisé, je crois que c'est Augsbourg, de mémoire.
5
buts à 1. Eladio, Real Madrid, Bayern Munich. 2 buts partout à l'aller, on le rappelle.
Ouais, 2 matchs aller. Allez, attendez, là, vous parlez du Bayern qui ont atomisé 5-1 ?
Non, de Dortmund avec ses remplaçants qui a gagné.
Ouais, okay. Je disais, le Bayern, ils ont encore perdu ce week-end. Et ils vont jouer à Santiago Bernabéu. Je pense que juste le nom, ça parle à beaucoup d'entre nous, je pense.
Le stade où il pleut jamais.
C'est un stade où il fait tout le temps beau. Même quand il y a une tempête, il y a du soleil. N'est-ce pas, Stéphane? Il a remis ses lunettes.
J'ai jamais été à Madrid.
Regardé la météo. Non, mais il n'y a même pas besoin d'y être pour voir qu'il fait beau à chaque fois là-bas. Mais oui, non, moi je pense que le Real maintenant part favori. Mais attention, comme je l'ai dit à l'aller et comme je le dis maintenant, Tourelle me fait très très peur et Tourelle peut sortir un truc de son chapeau et gagner, même si c'est médiocrement, il peut essayer d'aller se qualifier au Real Madrid, mais après ça reste le Real Madrid, et un Real Madrid avec un Bellingham qui n'était pas en forme à l'aller et qui sera en forme en retour, je pense que ça peut faire très très mal.
Il va mettre qui dans les buts?
Lounine.
Il a dit c'est Lounine.
Je m'en doutais.
La finale, il mettra peut-être Courtois.
Ouais.
Il a le choix maintenant.
Lucas,
l'homme de riche.
Moi, je rejoins assez là, j'ai l'impression que ça va être très serré. Mais je pense pas que tout repose sur Thomas Tuchel. Je crois que le Bayern a aussi montré qu'en 2 minutes, ils ont bien retourné la situation. Et sans une grosse bêtise de Kim In-jae, ils auraient pu même l'emporter. Le Bayern a quand même des joueurs qui sont irréguliers, mais qui restent très bons joueurs. Leroy Sané, Gnabry, etc. Ça peut passer au travers, mais ça peut aussi le faire. Pourtant, pour moi, le Real quand même est grandissime favori là, de ce que j'ai vu à l'aller. Il n'y a pas grand-chose qui me laisse penser que le Real à domicile pourrait se laisser avoir. S'il perd, ce serait peut-être au tir au but, poussé au bout de la nuit avec un match qu'ils n'arrivent pas à débloquer. Mais je pense que s'ils arrivent à bien enflammer le match dès le début, le Bayern rentrera à la maison.
Mais on a l'impression que justement, le Real Madrid est l'équipe qui a des joueurs qui sont quasiment tous au top physiquement, au top techniquement en cette fin de saison. Mon cher Abou, je ne sais pas si tu perçois la même chose que moi.
Ah si, mais c'est une équipe supérieure en tout niveau. Et en plus, ce qui est fou dans cette équipe du Real Madrid, c'est qu'en Ligue des Champions, c'est totalement une autre équipe. Et peu importe les joueurs que tu mets, en fait, dès qu'ils mettent le maillot du Real Madrid, c'est une équipe qui se transforme. C'est des joueurs qui se transforment. C'est des joueurs qui sont au-dessus. On était très inquiets pour eux cette saison avec le départ de Benzema. Comment ça va se passer? Il n'y a pas réellement de neuf. Ils jouent avec une double pointe. Comment ça va se passer? Ils te démontrent au fil de la saison que c'est une formidable équipe. Ce week-end, le Barça vient de leur offrir le titre de champion. Moi, je suis persuadé d'une seule chose, c'est que le Real Madrid va exploser le Bayern mercredi. Ça va se passer que de cette manière-là. Il y aura 3-0 pour le Real Madrid. J'ai aucun doute, mais vraiment aucun doute sur la qualification du Real Madrid. Je pense que s'il y avait quelque chose...
Stéphane, on vous entend. Hein. Oui,
je pense que s'il y avait quelque chose à faire pour le Bayern, c'était au match aller. Malheureusement, ils n'ont pas su le faire. Et là, je suis persuadé que le Real Madrid va se qualifier et sera encore une fois favori pour remporter cette Ligue des Champions lorsqu'ils atteindront la finale. Mais c'est comme tu le disais, cette force qui se dégage de cette équipe, elle est juste incroyable, surtout à ce stade de la saison et avec le nombre de blessés qu'ils ont eu, parce qu'il faut le rappeler, c'est une équipe qui a joué très longtemps sans Rudiger, sans Courtois, qui a joué sans Militao. C'est une équipe qui a eu des énormes blessures, et à la base on était toujours très inquiet pour le Real. Comment ça va faire? Comment ils vont remplacer ces joueurs là au mercato en janvier? Ils décident de pas faire un grand recrutement. Il n'y a même pas de recrutement, je crois qu'il n'y a même pas de joueurs qui arrivent en janvier. Il décide de ne pas changer l'ossature de son effectif. C'est vraiment ça, en fait. C'est la tête froide. Et comme vous le disiez, même quand il fait moche à Madrid, il fait beau à Madrid. Et c'est ce qui va se passer mercredi. Le Real ira en finale de Ligue des Champions assez aisément.
Alex, en toute objectivité, est-ce que tu penses que le Real Madrid...
Il est obligé d'être objectif de toute façon.
Non, mais
meilleure défense, meilleure attaque.
Déjà, quand tu joues à 12 contre 11, t'as toujours plus de chances de gagner.
Oh
premièrement.
Non, c'est non. Petit.
Premièrement.
C'est bien une parole de premier ministre, ça.
Deuxièmement.
C'est qui le 12e homme? C'est qui?
Il a un maillot jaune, justement, et il apporte le beau temps à Madrid.
Il sera en
lapsus révélateur. Lapsus révélateur. Merci. Merci Negreira, merci Lakisha.
Non, mais il sera en rose demain.
Ouais, bah ouais. Non, sérieusement, je pense que. Moi, je le dis depuis le début, encore une fois, réécouter les podcasts, je pense que le Real va se qualifier. Et je suis pas totalement d'accord avec Abou, je pense pas que ça va être une formalité.
Mais lui, il a dit c'est une boucherie demain. Hein.
Ouais, non,
après-demain plutôt.
Je pense pas. Moi, je pense qu'on aura droit à plus d'occasions de Munich et une bonne percée de Vinicius, un but, on connaît. Le Real qui va se qualifier sans dominer, sans démonstration tactique comme j'ai pu l'entendre ici, mais avec le cœur et puis l'expérience aussi. Et je pense ouais ça va se qualifier 2-1, peut-être 1-0, mais ouais une qualification du Real sans trop de problèmes en vrai.
Lucas, tu penses la même chose aussi?
Je pense que le Real, ouais, je l'ai dit. Je pense que le Real
confirmé
va se qualifier. Ouais. Ça peut aller jusqu'au tir au but.
T'as
mais
pas
moi,
fait changer d'avis non,
non? Non, parce que on a toujours envie d'y croire, de voir des surprises, etc. Mais ce Real là cette année. En plus, c'est.
Et c'est surtout c'est aussi que le Bayern n'est pas en forme.
Le Bayern n'est pas en forme, mais comme il disait un
sauf
peu.
Sauf fait
vous,
de jeu, franchement.
Quels que soient les joueurs, ils arrivent à. Moi, je suis un peu plus inquiet pour le Real une fois que Carvajal, que Kroos, que Modric seront partis. Mais tant qu'ils sont là, il y a en fait un écosystème autour d'eux, j'ai l'impression.
Non, moi, je suis même pas inquiet.
Quels que soient les joueurs. Quand
ils seront partis, ce sera une bouche. Il y
a des cycles dans tous les clubs.
Le petit Brahim,
restons sur le. Le match de mercredi, ouais, les amis.
Mais le Real va se qualifier pour moi aussi.
Je pense qu'il y a
un
pense plutôt qu'il va y avoir un énorme cycle qui va mettre en route pour le Real Madrid. Et que pendant au moins 4-5 ans, ils vont être intouchables en Liga.
Hein. En Liga ou en Ligue des Champions
En Liga et en Ligue des Champions.
Ça travaille bien.
Ça travaille bien.
Je regardais le petit Brahim déjà ce week-end. Il fait des merveilles.
Ils ont des jeunes, ils ont Arda Güler qui arrive, etc.
Doucement.
Pour qu'un. Bah justement, doucement, pour qu'un effectif soit mûr, là pour moi il est très très mûr l'effectif du Real, et avec ou sans Benzema ils ont montré qu'ils étaient mûrs, pour moi quand les gardiens du temple entre guillemets seront partis, Ancelotti aussi, en plus des trois joueurs que j'ai cités, ce sera plus pareil, pour le moment c'est le cas, ils vont continuer à être très performants, mais le Real ne sera pas toujours.
Parce que quand
toujours
ils sont
là,
partis,
les amis, on va progresser.
En 30 ans, entre 68 et 98, il n'y a rien qui se passe.
Une petite précision quand même.
Oui, rapidement.
J'ai une petite précision à donner parce qu'il faut respecter les auditeurs. Le Bayern Munich a aligné une équipe ce week-end avec la moitié de ses titulaires sur le banc ou en tribune.
Non, pas la moitié.
Et Guerreiro qui s'est blessé encore une fois.
Quasiment. Le Choupo-Moting que tu as vu, il y avait Gnabry à gauche.
Il y avait Tel dans les titulaires, Davis. Tel, Davis, il n'était pas titulaire au match aller.
Mais il n'était pas titulaire au match aller, mais normalement, c'est un titulaire,
tel,
Davis.
Tel, on verra s'il va être titulaire demain.
Il a fait beaucoup de bourdes, d'ailleurs. Hein.
Ouais. Tel, Davis, Choupo-Moting, il y avait Lainer sur le banc, il y avait en défense, je ne sais
pas
plus.
Mécano.
Il est rentré.
Mais Kimi Ndiaye ne jouera pas au retour, je pense. Hein. Vu ce qu'il a dit de Tourelle sur lui.
Non, je pense qu'il y a la moitié des joueurs.
Tourelle, il a découpé Kimi Ndiaye après à cause du penalty.
Quand tu as Choupo-Moting, je suis désolé quand même, quand tu as Choupo-Moting en numéro 10 dans une équipe ou en 9,5 du Bayern, c'est quand même pas le même Bayern. Thomas Müller sur le banc.
Harry Kane était là.
Oui, Harry Kane, oui, il est la moitié.
D'ailleurs, il a fait une très belle passe à Choupo-Moting.
La moitié.
Qui a décidé de la mettre.
Voilà. La moitié, je pense. Il y avait la moitié de l'équipe sur le banc, ce qui ça me surprend. On est quand même parce que
les amis, on va aller du côté de Marseille si ça vous gêne pas. C'est bon?
Ah, on va prendre un coup de soleil là, non?
Ouais.
On a besoin de chaleur.
Demi-finale Europa League en l'OM a-t-il dépassé les attentes? On sait tous bien. Est-ce que l'Atalanta a-t-elle été tout simplement surévaluée en but partout au stade Vélodrome? Les amis, qu'est-ce que vous en pensez rapidement du match aller? Peu après, on va basculer. Dans la demi-finale retour de l'Europa League. Cette fois-ci, c'est Marseille qui va se déplacer du côté de l'Atalanta.
Et ben moi, le reproche que je fais à Marseille sur le match aller, c'est de pas avoir dit tout de suite, même Gassé, Longoria, j'en sais rien. De toute façon, on va gagner, c'est sûr. On est meilleur et tout. Parce qu'il faut avoir confiance. Quand on l'a vu sur le terrain, les joueurs ont dit après, on les a regardés dans les yeux. Mais je pense que tous ceux qui ont vu le match vont vous dire que l'OM aurait dû gagner, mériter en tout cas de gagner ce match. Donc. Moi, franchement, l'Atalanta, je ne vois
après,
pas.
Tu vas pas me dire que c'est la communication de l'OM qui a fait que l'OM
non,
n'a pas gagné.
Non, bien sûr que non, puisque je dis la même chose pour le Paris Saint-Germain.
Mais c'est ce que ça sous-tend.
Non, c'était c'était un petit peu ironique ce que j'ai dit, mais en tout cas, surtout, ça a amené à mon idée que moi, l'Atalanta n'a strictement rien de mieux, de supérieur. Et là, on peut peut-être le faire, le truc des joueurs, là, de zapper les joueurs. Il n'y a pas que des monstres qui jouent à l'Atalanta. Je ne pense pas que ça soit du tout un or. Ils sont sixièmes en Italie. Faut pas en faire. Voilà, c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant longtemps par Paris Saint-Germain. On en fait des monstres. C'est impossible, machin et tout. On part perdant. C'est un exploit et tout. Même, je pense que même gagner en Italie, ou quoi, ce que se qualifier, hein, peut-être ça sera au pénalty. En Italie, ça serait pas non plus, je pense, l'exploit du siècle. Ça serait un très bon résultat. C'est du 50-50 pour moi. Voilà.
Et là, dit.
Franchement, j'en ai entendu quand même des choses. Pour moi, c'est simple. Hein. L'Atalanta, ok, Marseille ont fait un bon match. Mérité ou pas de gagner. Match retour, l'Atalanta vont gagner le match. Moi, je suis persuadé que l'Atalanta vont sortir Marseille. J'ai même pas de doute là-dessus. Si avec une telle ferveur et avec un tel engouement, Marseille n'ont pas réussi à gagner à domicile, on a vu Marseille à l'extérieur, c'est catastrophique. Marseille à l'extérieur, qu'on se dise la vérité.
Ça, c'est le problème.
Marseille à l'extérieur, c'est catastrophique. Ils vont aller jouer à l'Atalanta, c'est pas un stade de fou, c'est pas une ambiance de fou, mais ça va pas suffire. Pas plus tard que cet après-midi, l'Atalanta, ils ont joué, ils ont fait tourner, ils ont gagné assez aisément. Ils jouent sur les doubles tableaux.
Non, assez aisément, non. Ils perdaient 1-0 et ils sont revenus
dedans. Il a fait 2-3 changements, ils sont revenus, ils ont gagné assez aisément. Il faut regarder le match.
Ouais, mais c'est pas aisément.
Moi, j'ai regardé le match. Est-ce que tu as regardé le match, Alexandre?
Bah non, mais
merci. Mais quand tu regardes pas le match, quand je te dis assez aisément, c'est dans la façon. Dès qu'ils ont rien au niveau. Non, mais il faut voir le but, faut voir les occasions manquées de l'autre côté. C'est pour ça que je dis assez aisément, c'est dans le jeu. Je parle pas en termes de score, je parle dans le jeu et en sachant qu'il a fait tourner au moins 6-7 titulaires qui n'étaient pas présents. Du coup, c'est assez aisément. Il a fait 2-3 changements, ils ont rehaussé le niveau.
Il a gagné contre
Samaka, il a encore marqué.
Salernitana.
Ouais. Et Samaka, il a encore marqué.
Il est déjà relégué, non? C'est ça?
Oui, qui est déjà relégable. Okay. Samaka.
Il est rien avec 15 points.
Oui, oui, ah, non, ouais. Mais c'est ce que je dis, mais attendez, mais ça change rien du tout. Ils sont sixième de la série. Hein.
Ouais.
Bon, bref, Samaka, il est en très bonne forme. Et j'avais dit qu'il allait marquer au match aller, il a marqué au Vélodrome. Et je pense qu'il marquera au match retour avec Lookman, El Bilal Touré, etc. Pour moi, ça va le faire. Et pour moi, Marseille vont sortir face à l'Atalanta malgré qu'ils disent qu'on va gagner ou quelque chose d'autre comme ça.
Juste vous signaler qu'en Ligue 1, Lille mène face à Lyon 1-0 et qu'on joue la 37e minute. Mon cher Lucas.
Moi, je pense que Marseille va se qualifier avec des difficultés, mais je pense que, comme disait Stéphane, ce serait même pas un exploit d'aller se qualifier là-bas. Ce serait un très très bon résultat.
Ouais.
Moi, j'ai dit depuis le début, hein, c'est une très bonne équipe. L'Atalanta, Gasperini, c'est un super coach. Ils ont 2-3. Non, ils ont des super joueurs. Ils ont des Coupe Miners, des KTR.
C'est ça les Français.
Voilà, tu fais la même chose quand il s'agit de la personne du PSG. Elle
après, regarde. Non, mais
bon,
ça,
on verra bien. Moi, je pense qu'en tout cas, l'Atalanta, c'est pas une équipe qui est foncièrement supérieure au Benfica que Marseille a éliminé. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que Marseille irait pas faire un match nul là-bas et se qualifier au tir au but. C'est tout.
Donc, c'est
Est-ce que des
pas
gens
victoire,
ici,
qualification.
J'ai une petite question à bout. Excuse-moi, après, je te laisse parler. Est-ce que des gens ici ont regardé AS Roma Juventus dimanche?
Ouais, oui, moi, j'ai regardé. Mm-hmm.
Ok. Bah, c'est tout.
Par rapport une pique à la Ligue 1, c'est ça?
Non, mais t'es sixième derrière ces équipes. Je veux dire, bon, moi, franchement, ce que j'ai vu, j'ai pas vu de jeu, j'ai rien vu. Quoi.
Ah là là, Stéphane, avec ses
mais
conclusions.
Mais t'as rien vu, mais ces équipes-là,
rapides.
Mais ces équipes-là, s'ils jouent contre les cinquièmes ou quatrièmes même de Ligue 1,
ils
fracassent.
C'est ça le problème pour l'instant avec l'Atalanta qui a fracassé l'OM.
Tu sais très bien que c'est
septième ou huitième de Ligue 1.
Allez, Abou, on te laisse réagir.
Non, c'est des faits, c'est tout.
On verra Brest l'an prochain, ce sera des faits aussi.
Ah oui, ça c'est sûr. Ah ouais, ça c'est sûr.
Abou, on te laisse réagir.
Vas-y, ils
sont deuxième.
Bah, écoute, moi, pour le coup, au match aller, j'étais présent au stade Vélodrome. Très belle ambiance, franchement. Ça a poussé fort derrière l'Olympique de Marseille. Après, maintenant, je pense que c'est un match où tu peux t'en mordre les doigts quand même, parce que c'est un match que tu dois gagner, que c'est un match que tu dois gagner 2-1, voire même 3-1, il y a cette frappe de Unai qui va sur la barre. Il y a Aubameyang qui est tout seul, qui décide de croiser au lieu de piquer. Il aurait peut-être mieux fait de piquer. Il y a ce but de Ismaïl Assar. Malheureusement, il y a Lucien Riquet qui démarre hors jeu. C'est sur des petits détails comme ça aussi qu'on voit la différence entre les moyennes bonnes équipes et les très grandes équipes. Donc l'OM aurait dû gagner ce match-là À l'aller, ils ne l'ont pas fait, c'est malheureux pour les Marseillais. Maintenant, toutes les chances, elles restent quand même du côté marseillais. J'ai vu une statistique passer tout à l'heure. L'OM a 41% de chances de victoire après les matchs qu'ils ont fait au match aller. 41% de chances de victoire au match retour. Après, le foot, pour moi, ce n'est pas des stats. Et je pense qu'on a surévalué cette équipe de l'Atalanta. Moi, je suis d'accord avec Stéphane. C'est une belle équipe de football, c'est vrai. Mais moi, ce que j'ai entendu, oui, c'est une équipe qui presse haut, c'est une équipe qui fait mal, c'est une équipe qui joue vite, c'est une équipe qui va étouffer les Marseillais. Vous avez vu ce que Lens, ils ont fait à Marseille. Bah, l'Atalanta, ça va être deux fois pire. Ok. D'accord, on a vu ce qui s'est passé au Vélodrome, on a vu même Gasperini qui je pense est agréablement surpris par le niveau des Marseillais. C'est une équipe un peu illisible, Marseille, et je pense que c'est ça aussi qui fait dire que l'Atalanta va les tuer, parce que c'est une équipe qui joue cette saison qui est très très illisible, Marseille. C'est une équipe qui tantôt va faire un bon match, qui va sortir de situations gargantuesques, et tantôt va faire un match où tu comprends pas ce qui se passe, comme le match contre Lens. En fait, le match contre Lens, tu dois jamais le gagner, pourtant tu le gagnes. Moi, je pense que ce match retour à l'Atalanta, je pense que ils peuvent le faire, les Marseillais, je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense qu'ils ont compris aussi qu'il restait qu'un match, en fait. C'est ce match-là, après, tu vas aller en finale, qu'ils n'ont plus rien à perdre. Je pense qu'il y a des joueurs d'expérience qui vont faire du bien à cette équipe. Il y a les retours de blessures qui vont faire extrêmement de bien. Quentin Marlin qui revient, il y a Illiman Ndiaye. S'il arrive à faire le même match, pitié, Illiman, je ne demande que ça. Je rien de plus. Si tu arrives à refaire le même match pendant 60 minutes face à l'Atalanta jeudi, je pense que ça fait toute la différence. Et ça va être un très, très, très beau match, en tout cas, une très, très belle opposition. Mais moi, je vois pas pourquoi l'Olympique de Marseille le ferait pas. Et comme le disait Stéphane tout à l'heure, on n'a pas assez confiance en nos clubs français. On y va toujours un peu la queue entre les jambes, pardon, en disant oui, ça va pas le faire. Bah là, on disons-nous que ça va le faire, disons-nous que c'est possible. On n'attendait pas l'OM à ce niveau-là face à Benfica, on les attendait pas sortir Benfica, ils l'ont fait. On n'attendait pas l'OM en demi-finale de Ligue Europa, ils y sont. Donc une fois que tu es en demi-finale de Ligue Europa, les portes pour la finale, elles te sont grandes ouvertes.
Alex, les planètes s'alignent pour l'OM, tu es d'accord avec ça?
Je partage à 90% ce qu'a dit Abou. Franchement,
c'est
je
quoi
pense
les 10%
que... bah, c'est un peu de retenue parce que voilà, je pense pas être aussi catégorique que toi. Mais je pense que Marseille a quand même ses chances de se qualifier face à l'Atalanta. Au match aller, comme tu as dit, c'était l'équipe qui était au-dessus, qui méritait de gagner. Même la deuxième mi-temps, franchement, moi j'ai beaucoup apprécié la deuxième mi-temps. Il manquait un petit peu de réussite, mais au final ça, si c'est juste ce qui manque... J'ai envie de dire, la réussite, tu vois, elle peut tourner des deux côtés. Donc, si, au match retour, moi, je ne me fais pas trop de soucis. Enfin, je ne vais pas non plus être la dithyrambique à dire que Marseille va se qualifier comme toi, mais je pense que voilà, ils peuvent largement se qualifier.
Je n'ai pas dit qu'ils allaient se qualifier, hein. J'ai dit qu'il fallait y croire.
Ouais, moi, je suis d'accord et je préfère ce discours plutôt que d'arriver et dire oui, j'ai un peu peur, je ne sais pas trop l'Atalanta, je ne sais quoi. Non, je préfère qu'on dise voilà, Marseille a ses chances de se qualifier. Les médias français, il faut que là, cette fois-ci, il soit plus optimiste pour Marseille. Et moi j'y crois, voilà. Et en plus, ce serait vraiment cool d'avoir une finale, d'avoir Marseille en finale. En plus, après, avec la saison un peu en difficulté, en dents de scie qu'ils font, même mauvaise, disons-le, en Ligue 1, ce serait bien qu'ils puissent gagner l'Europa League. Voilà.
Et d'ailleurs, si Marseille se qualifie, Marseille va rencontrer soit le Bayer Leverkusen ou l'AS Roma.
Leverkusen
a dominé justement 2-0 au match aller. Le match retour arrive dès ce jeudi. L'occasion pour nous justement d'aborder cette rencontre. Là aussi, les amis, quelles sont les chances des deux équipes, l'AS Roma et le Bayer Leverkusen, pour la qualification en finale?
Bah, c'est pour moi 99% pour Leverkusen et 1% pour la Roma. Encore plus depuis que je les ai vus jouer dimanche.
Non, mais il faut savoir qu'il les a fait jouer. Dybala, il est sorti à la mi-temps, par exemple.
Abraham qui est de retour depuis quelques semaines seulement.
Non, mais faut arrêter.
Ah, je pense qu'on est quand même tous d'accord pour dire.
Il faut que tu arrêtes de regarder un match et tu dis bah voilà, j'ai vu. C'est comme ça qu'on se fait éclater en Europe.
Ce que je dois surtout arrêter, c'est que constater qu'il ne faut pas faire notamment.
Stéphane, elle est en train de dire que tu regardes un match et tu te fais un avis général. Non, mais c'est vrai.
Il n'a pas contredit.
Non, mais pas spécialement.
Non, Malik, il extrapole. Du coup, j'ai même plus besoin.
Pas spécialement toi, mais je sais que même durant la CAN, j'ai vu pas mal d'observateurs comme ça regarder 5 minutes de match et faire des généralités après pour dire non, la CAN c'est comme si il passe dans le couloir, il regarde juste.
En fait, Malik, toi, c'est la même chose. C'est une caricature, mais en fait, c'est la faillite de Pierre Sage, Malik, éloigné, qui dit que ça ne le dérange pas qu'il ne soit pas nommé parmi les meilleurs entraîneurs de Ligue 1, parce que de toute façon, on ne peut pas juger un entraîneur si on ne vient pas assister à ses entraînements. Donc moi, je suis contre ça.
Ah ouais,
Pierre Sage. Il devait être tombé de la lune. Et,
il a manqué de sagesse.
Donc, ouais, donc l'Olympique Lyonnais ouvre tous ses entraînements au public.
J'en sais rien. Non, mais c'est pas eux qui votent. Ils parlent des autres. Non, j'en sais rien.
Ah non, mais
je sais pas.
Peut-être des personnes qui votent.
Soit c'est-à-dire c'est les autres entraîneurs.
Mais en tout cas, depuis que Pierre Sage est en place, c'est lui, entre lui et Luis Enrique, ça se bat qui a pris le plus de points.
Exactement.
Du coup, je ne comprends même pas comment il n'est pas
voilà.
cité. Voilà. Je ne comprends même pas.
Ça,
il a pris plus de points que tous les autres entraîneurs. Mais en tout cas, la même période est large.
Beaucoup plus que Brest aussi.
Mais bien sûr.
Bien sûr.
Tu peux par exemple parler de la CAN, tu parlais de la CAN, je parle pas de moi particulièrement, mais tu peux parler de la CAN ou même de Brest par exemple. Tu as vu jouer Brest 4 fois cette saison, tu as vu 7-8 résumés de matchs de Brest, tu as vu des vidéos des petits bouts de match et tout, tu peux tout à fait dire, voir les caractéristiques de cette équipe de Brest. Tu n'es pas obligé de les avoir vus jouer pendant, sur les 34 matchs de la saison. Donc c'est pareil. Moi, je dis simplement que, effectivement, je n'ai pas vu énormément de matchs de Serie A cette année. Je tombe juste, je disais, c'était pour moi un peu une caricature. J'ai regardé ce match, je me suis embêté.
Qui est ton favori?
Pourquoi?
T'as dit pour toi, c'est le Bayer Leverkusen, quoi qu'il
arrive. Très largement.
Et toi, Elhadj?
Bayer Leverkusen. AS Roma à domicile.
Mais t'avais émis une petite réserve quand on a dit ça?
Non. À quel moment?
C'est la semaine dernière où il y avait des.
Et Lucas et toi?
La semaine dernière.
Quand même, le débat c'était plus nuancé.
Juste après, on va basculer dans la Ligue 1, les amis. Il y a beaucoup de choses à dire.
Mais je pense qu'au vu de la saison qu'a fait Leverkusen et qu'on a vu ce qu'ils ont fait contre la Roma à l'aller, il n'y a pas de doute. Leverkusen va continuer à être invaincu. Il faut un équipe sensationnel et ils vont les éclater. Ils vont battre Marseille 3-0 en finale, c'est écrit.
Ah, parce que Marseille, ils vont aller en finale.
J'ai
annoncé que Leverkusen va finir la saison invaincue dans tous les domaines. Vous allez voir.
Ah bon ?
Regarde le sorcier qu'ils ont à Leverkusen. Comment ça ne peut pas être ? Ils vont se qualifier pour la finale aisément. Malheureusement, ils tomberont sur l'ogre marseillais qui va leur faire très très mal. Et Marseille surprendra encore une fois l'Europe.
J'adore les observateurs neutres comme Alex. C'est magnifique.
D'ailleurs, Gassé, il signe 5 ans.
Alex,
je suis d'accord avec vous. Je ne vais pas réinventer. Je pense que Leverkusen va se qualifier. Et puis, on aura une finale. Leverkusen-Marseille, j'espère aussi.
Et t'as dit quoi?
Derrière, Gassé, il signe 5 ans.
Non, c'est Fonseca qui va venir pour jouer avec des champions avec l'OM. C'est pas grave, ça, c'est une excuse. Tu peux l'écrire dans le quotidien du sport.
Non, mais
c'est pour moi.
Il est courtisé par des clubs qui jouent la Ligue des Champions.
Mais il refusera pas. Il joue tout simplement l'Europe.
Il refusera pas un club qui a gagné la Ligue Europa.
Merci, les amis.
Ils joueront la Ligue des Champions.
On va basculer tout de suite, les amis, avec la Ligue 1, justement. C'est parti. Alors, retour également sur la Ligue 1, les amis, avec les résultats de la 32e journée, notamment. Mon cher Abou, est-ce que tu peux nous faire un point sur le haut et aussi sur le bas du tableau au niveau donc, de cette Ligue 1, avec aussi les luttes pour l'Europe et pourquoi pas le maintien?
Bien sûr, pour ce qui est du haut de tableau, l'AS Monaco est assuré de terminer dans les 4 premiers, offrant ainsi une place pour la prochaine Ligue des Champions. Au mieux, les hommes d'Adi Hütter finiront 2e, au pire 4e et pourront jouer les barrages d'accession. De même, le Paris Saint-Germain, champion de France, sera en phase de poule de la Ligue des Champions. Paris est sacré champion pour la 12e fois de son histoire.
Et du côté de la Ligue Europa et de l'Europa League Conférence, qu'en est-il?
Pour la Ligue Europa, le club qui tient le mieux la corde est actuellement l'OGC Nice, qui affronte d'ailleurs en ce moment même Lille, qui joue contre Lyon. Lille qui mène d'ailleurs 2-0 à l'heure de jeu. Pour l'instant, il y a 2-0 pour les Lillois. Le club du sud de la France compte 51 points, soit 2 de plus que Lens, juste derrière avec ses 49 points. Lens est pour l'instant qualifié pour la Ligue Europa Conférence avec sa 6e place et ses 4 points d'avance sur le 7e, qui n'est autre que Rennes. Mais attention, Lyon et Marseille ont un match de retard, un match de retard que Lyon est en train de jouer actuellement et pourrait revenir à 2 points des Nordistes. Si les deux Olympiques vont batailler jusqu'au bout pour la 6e place, la 7e place est également en ligne de mire. Cette dernière, rappelons-le, pourrait être qualificative pour la Ligue Europa Conférence en cas de victoire finale du Paris Saint-Germain face à Lyon en finale de Coupe de France. Lyon qui peut également espérer la qualification en Ligue Europa en cas de victoire face aux Parisiens le 25 mai prochain au stade Pierre-Mauroy.
S'agissant du bas du tableau.
Pour le bas du tableau, la situation semble difficile pour Clermont, 18e et dernier de Ligue 1. Au mieux, les hommes de Sébastien Bichard, qui est arrivé en mars dernier pour redresser les clubs, peuvent espérer jouer les barrages, c'est-à-dire la 16e place, actuellement occupée par Metz. Les Messins, quant à eux, sont à 3 points du premier non relégable, le Havre, et à 4 points du FC Nantes d'Antoine Camboiré, qui visiblement va réussir l'exploit de maintenir une nouvelle fois le FC Nantes dans l'élite.
Et qu'en est-il des Lorientais, nos amis Lorientais, auteurs d'un mercato ambitieux cet été d'ailleurs?
Lorient n'a pas remporté de match depuis 8 journées et reste sur 6 défaites consécutives. La fin de saison semble très compliquée pour l'actuel 17e de Ligue 1 qui va affronter l'Olympique de Marseille et Clermont lors de ses deux derniers matchs. Les Lorientais peuvent au mieux espérer la 16e place, synonyme de barrage.
Au niveau de la Ligue 2, justement, est-ce qu'on peut savoir qui est susceptible de monter, voire aussi
pour l'été prochain.
Auxerre avec 70 points et ses 6 points d'avance sur le deuxième du championnat à 2 journées de la fin semble être promis à la Ligue 1 l'an prochain. Les coéquipiers de l'international malien Lassine Sinayoko, auteur d'une formidable saison, vont probablement retrouver l'élite un an après leur descente. Pour accompagner Auxerre dans ce qui va s'appeler la Ligue 1 McDonald's, ce sont Saint-Etienne et Angers qui vont devoir batailler jusqu'à la fin. Les deux clubs sont à égalité de points à 2 journées de la fin avec une différence de but favorable au vert. Pour ce qui est des demi-finales de barrage, Rodez, le Paris FC, Caen et Laval vont devoir batailler jusqu'au bout pour la 4e et 5e place. La réponse finale sera donnée le 17 mai prochain lors de la 38e et dernière journée de Ligue 2 BKT.
Alors les amis, qu'est-ce que vous retenez justement de cette chronique d'Abou en s'agissant de la Ligue 1? Le Paris Saint-Germain est champion, c'est déjà acté. Au niveau de la descente, il y a quand même match, si j'ose dire.
Ouais, exactement. C'est ce que je précisais quand on prendra part tout à l'heure avec Philippe Carius, c'est qu'on... Moi, je ne sens pas trop le Havre. Donc, je vois plus, par exemple, la prochaine journée, Metz capable d'aller gagner à Strasbourg. Et le Havre qui va à Nice, ça va être compliqué pour eux. Et même Nantes reçoit Lille. Donc, vous pouvez très bien vous retrouver avec, je crois que Camboiré, je crois qu'il a gagné aucun match à la Beaujoire depuis qu'il est revenu, Camboiré.
Il a gagné un match, mais je ne sais plus si c'était à la Beaujoire, dans tous les cas.
Non, il en a gagné deux ou trois. Deux à l'extérieur et un nul. Et un autre nul, là. Bref, ça va être très compliqué. Et on peut se retrouver avant la dernière journée avec 33 points pour Nantes, 32 pour Le Havre et 32 pour Metz. Metz joue le Paris Saint-Germain la dernière journée. Mais personnellement, je vois tout à fait Metz capable de battre le Paris Saint-Germain la dernière journée. Surtout si le Paris Saint-Germain va en finale, mais même, de toute façon, ça sera une semaine avant la finale de la Coupe de France. Et s'ils vont en finale de la Ligue des Champions, c'est encore pire, là. Ce n'est pas un match du tout qui les intéressera, quoi. Je ne sais même pas si peut-être Enrique va rester au campus pour faire du padel.
Moi, je vois déjà, bon, clairement, je pense que c'est déjà acté.
C'est cuit.
Pour la descente.
Lorient aussi.
Lorient, je pense que c'est acté aussi.
Ils peuvent espérer.
Et pourquoi pas Metz, hein, moi je sais pas, hein, parce qu'il y a quand même 3 points d'écart, hein, entre Metz et Le Havre.
Moi je vois Le Havre se maintenir.
Hein, ouais. Moi aussi je vois Le Havre se maintenir.
Regarde ton classement là, imagine simplement que Metz joue à Strasbourg qui, comme l'a dit l'ami d'Abou, Patrick Vieira, était déjà en vacances. Donc c'est un derby de l'Est. Donc Metz peut gagner, qui va récupérer Mikotadze, peut gagner, à mon avis en tout cas, à Strasbourg, peut prendre des points à Strasbourg plus facilement que Le Havre à Nice et que Nantes contre Lille.
Alex, ton sentiment ?
Surtout que Le Havre, là, ils vont jouer contre Nice et en plus, ils vont recevoir Marseille sur les deux dernières journées. Donc moi, je suis d'avis avec Stéphane, je pense que Metz va se maintenir. Mais je voulais aussi parler de Marseille, je pense qu'ils peuvent accrocher finalement une place européenne parce que là, ils sont à 5 points de Lens. Mais ils ont un match en retard comparé à Lens et Rennes. Et surtout que Lens et Rennes vont s'affronter la prochaine journée. Et que Marseille affronte Lorient, se déplace à Reims.
Et ils jouent Toulouse, son match en retard. Toulouse qui est déjà maintenu.
Ils jouent Toulouse.
Marseille, c'est pas Reims le match en retard?
Non, si, c'est Reims.
C'est Reims, pardon, le match en retard de Marseille.
Ouais. Donc ils reçoivent Lorient, ils se déplacent à Reims et ils se déplacent au Havre. Donc du coup, je pense que Marseille peut faire une très très bonne fin de saison.
Moi, je pense que ça va être compliqué. Il ne faut pas oublier que les Havrais voudront se maintenir. Ils vont jouer à domicile contre Marseille et Marseille à l'extérieur qui sont catastrophiques. Ça va être très compliqué. Reims aussi, ils ne vont pas se laisser.
Et ce que je veux dire, c'est que les adversaires directs, c'est Lens et Rennes.
En fait, là, c'est que des équipes. Parce que moi, j'entends souvent cette formule de oui, le dernier va vouloir jouer le maintien. Mais Marseille aussi joue la place pour
d'accord, mais j'ai envie de te dire que généralement, ceux qui jouent la survie en maintien ont deux voire trois fois plus parce que jouer l'Europe c'est
une survie pour Marseille.
C'est important, je dis pas que c'est pas important,
et mais même pour les joueurs.
D'accord, mais une descente en Ligue 2, t'imagines?
Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les deux ont un truc à jouer.
Oui, je dis pas que les deux n'ont pas un truc à jouer, mais généralement, quand t'es rétrogradé dans une autre ligue, généralement, t'as deux voire trois fois plus d'envie de jouer.
Et là, tu oublies quand même quelque part aussi le niveau de l'équipe, quoi. Ouais. Je veux bien qu'on dise que l'OM.
André Ayew se fera un plaisir de marquer contre Marseille.
Je veux bien qu'on dise que l'OM, ils ont un effectif indigne de leur statut, mais ils ont quand même pas l'effectif du Havre, quoi. Donc. Moi, je pense qu'il y a un tel niveau entre les deux équipes que l'OM, de toute façon, sera favori du match.
Si le Havre accepte de rehausser son niveau comme face au Paris Saint-Germain.
Au Paris Saint-Germain, oui, c'était un contexte particulier. Moi, j'ai surtout vu et regardé les matchs. Le Havre-Metz, victoire de Metz, et le Havre-Nantes, victoire de Nantes, quoi. Et là aussi, ils avaient, c'était encore plus important que leur dernier match, des matchs à 6 points pour jouer le maintien, quoi. Donc, je pense pas qu'on puisse... En foot, tout peut arriver. Mais je pense pas que si jamais tu as le Havre-Marseille et que Marseille est sixième, mettons, à égalité ou devant à la différence de but de Lens, et qu'il faut qu'il gagne pour aller en Ligue Europa, il n'y aura pas photo dans les motivations. Ça sera la même motivation pour le Havre qui voudra sauver ça. Qui voudra sauver. Mais après, il y aura peut-être photo quand même dans la différence d'effectifs et du niveau des joueurs. Quoi. André Ayou, je l'adore, mais ce n'est pas Pierre-Emerick Aubameyang.
Lucas, ton sentiment par rapport à cette... Au maintien,
ouais, déjà pour le maintien,
nos amis l'orienter.
Déjà le maintien pour Lorient, Metz ou Le Havre, il y a des victoires, mais il y a aussi des matchs nuls. Et je pense qu'il y a des équipes qui risquent de faire nul. Donc je pense que le classement ne va pas beaucoup bouger d'ici là. Je pense que Le Havre pourrait s'en sortir et que Metz jouerait les barrages. Après, pour moi aussi, clairement, Clermont et Lorient, ça paraît terminé. Moi, ce que j'aimerais retenir aussi sur cette journée, c'est que Monaco conforte la deuxième place. Monaco, quand même, pour moi, ils ont largement l'effectif pour être deuxième. Ils ont Ben Yedder, Zakaria, Minamino, Golovin, etc., etc. Pour moi, c'était un peu un scandale qu'ils n'aient pas plus mis la pression à Paris. Et là, donc, je vois que Monaco reprend un peu la place qui devait être la sienne en début de saison. Et j'espère qu'ils feront bonne figure en Ligue des Champions l'an prochain.
J'ai l'impression que Lille est peut-être sur une meilleure dynamique. Là, ils mènent déjà 2-0, 58 points. Ça se tient en un match.
Ils sont
à 3 points.
À
3 points de Monaco. J'ai l'impression que dans la
dynamique... Il y a une journée après.
Oui, mais j'ai l'impression que dans la dynamique, Lille semble être...
Et en différence de but, c'est quoi en différence de but ? Moi, je pense que ça a été réglé...
En différence de but, avec... Monaco, ils sont loin devant.
Ouais. Je pense que ça a été réglé, l'affaire Monaco-Lille, elle a été réglée à Louis II quand Monaco a battu Lille.
Ouais. Je pense que ça n'a pas bougé.
Pour moi, c'est
ce serait mieux pour le football français que si Lille se qualifiait directement en Ligue des Champions.
Mais c'est ce qui va se passer, ils vont finir troisième.
Bah oui, moi aussi, je pense... Et... Plutôt que Brest serait mieux.
Brest,
mais Brest a besoin de se qualifier pour grandir aussi, les amis.
Non, ils vont aller en Ligue Europa. Ils vont grandir
en Europa.
L'étage
bien.
En dessous,
ils vont
c'est pas
grandir en Ligue des Champions.
Ils vont grandir comme Rennes, comme Lens.
Non, mais côté oseille, les amis, sportivement, ça va être compliqué. Mais côté oseille, ce serait bien pour eux.
C'est possible. Déjà, pour leur stade, ça va être très compliqué de grandir pour Brest. C'est pas un club avec l'écosystème, avec une base de
supporters. À côté, il y a la Beaujoire, ils iront jouer à la Beaujoire, par exemple.
Tu vois que Lens, Rennes, ils ont du mal à passer le step. Ça va être trop difficile.
Mais même la nouvelle formule de la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est t'as plus 6 matchs de poule, t'en as 8. Ça va être un rouleau compresseur pour les Brestois. Ça va être très compliqué. Allez en Ligue Europa, faites ça bien là-bas. Et voilà, bon courage.
Il y a des bons matchs en Ligue Europa aussi.
C'est pas gentil, le garçon.
Il n'est pas gentil.
Tu vas faire des mécontents.
Surtout s'ils gardent pas leurs joueurs.
Je te le dis, c'est du hasard. Surtout vers les premières journées. Après, nous, on accepte de leur reprêter une saison à Jordan Amavi
et Aston Villa chez eux.
Pas tous ensemble, les amis.
C'est la conférence, c'est pas la Ligue
Europa. Abou, pas gentil. T'es pas gentil. On va partir, les amis, cette fois-ci. Du côté de notre ami sélectionneur Didier Deschamps. Didier Deschamps qui va nous donner sa liste, je crois, le 16 mai prochain. C'est parti. Alors les amis, à l'approche de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs internationaux, quels joueurs pourraient être les surprises de cette sélection, Stéphane ?
Bah, au rythme où ça va, ça va plus être des surprises d'être retenu, ça va plutôt être des surprises de ne pas être pris.
Parce qu'on va jusqu'à 26, hein, ouais, c'est ça que,
il peut aller jusqu'à 26. Maintenant, il faut quand même rappeler qu'à la Coupe du Monde, il en avait pris 25, hein, il n'en avait pas pris 26. Donc, il n'est pas non plus obligé d'en prendre 26.
Il peut même rester à 23, s'il
ouais,
veut.
Ouais, s'il veut, ou ouais, même il ne peut en prendre que 11, hein, après tout. Mais, non. Bref, qui va en profiter ? Moi, je pense que je vois un joueur, notamment, vous avez peut-être tous... bondir, qui pourrait en profiter, c'est Christopher Nkunku, qui vient de faire son retour à Chelsea.
Il n'a pas le rythme.
Voilà, ouais, bah, je m'en doutais. Il vient de faire son retour. Je pense, si je dis ça, c'est parce que, donc, il vient de faire son retour avec Chelsea, là, il a joué 15 minutes. Il reste encore 2 matchs, je crois, en Première Ligue, plus 2 matchs de préparation, et que peut-être, il peut essayer de prendre le risque, parce que il a quand même un profil complètement différent de tous les autres. Il n'y a aucun joueur de l'équipe de France qui a le profil. Et notamment, par exemple, on l'a vu...
Il prend un coucou, il ne prend pas la casette.
Non, je n'ai pas parlé... D'abord, 26, donc il peut y en avoir plusieurs. Mais dans la casette, on a bien compris que c'était un problème différent que celui de niveau. Donc je dis Nkunku parce que je pense, par exemple, c'est celui qui...
T'as des infos là-dessus ?
Non, mais tout le monde le sait.
Non, mais tout le monde le sait.
Mais vous savez quoi que moi, je ne sais pas, les amis.
Simplement que la casette n'ira jamais, ouais. Plus jamais en équipe de France tant que c'est Didier Deschamps.
Didier, la casette, ça, je peux mettre ma main à couper. Ouais, moi, je suis...
Il s'est passé des choses ?
je suis quasiment d'accord. Mais
je crois qu'il reproche une tournée en Amérique du Sud.
Au mois de juin, ça s'était pas très passé. Quand tu joues en équipe de France, Malik, il faut juste. On parlait tout à l'heure d'intelligence. Tu joues en équipe de France, ton dernier match.
Mais on a déjà vu Didier Deschamps pardonner.
On se
rappelle de Valbuena, Valbuena
n'est jamais revenu. Hein.
Non, et Benzema, c'est parce qu'il y avait une pression politique.
On part sur un terrain glissant. Moi, je pense que. On sait pourquoi Valbuena et Rabiot, ils ont été pardonnés.
Stéphane, on te laisse finir.
Il a pardonné Payet aussi.
Je dis juste que.
On te laisse finir.
Je dis juste que quand tu joues ta dernière sélection en 2017, c'est-à-dire il y a 7 ans que tu marques 2 buts et que tu n'es plus jamais rappelé après, c'est plus une question de niveau. Tout le monde est d'accord. Okay. Surtout, regarde les saisons de Lacazette à Arsenal. Elles n'ont pas toutes été exceptionnelles, mais il y en a beaucoup qui ont été quand même très, très bonnes. Quoi.
C'est probant quand même.
Et il n'a jamais eu. Donc, ça me paraît évident. Alors, donc, moi, je dirais Nkunku, qui peut en profiter, qui n'aurait peut-être pas été pris, qui peut-être se dire, quand j'ai le droit à 26, je vais prendre quelqu'un qui peut jouer peut-être moins. Mais je pense, par exemple, c'est malheureusement, là, il n'a pas le niveau peut-être physique. Le principal, le seul qui peut éventuellement essayer de remplacer un Griezmann dans une équipe de France en 9,5.
Donc, s'il appelle Nkunku, par exemple, peut-être que Colomoigny.
Non.
Barcola.
Parce qu'on se rappelle que Colomoigny a été appelé parce que Nkunku a été blessé.
Colomoigny, je pense qu'il prendra Colomoigny.
Malgré tout.
Il peut prendre. Ouais, je pense qu'il prendra.
C'est un titulaire indiscutable.
Là, je ne parle pas de niveau. Hein, c'est dans la politique de Didier Deschamps. Il l'a dit. Même en parlant de Barcola.
Ouais, cette forme de fidélité, de loyauté. Voilà,
il a ouvert la porte à Barcola. Il a dit c'est pas mon habitude de prendre des joueurs que j'ai pas pris récemment et tout. Comme avant, il avait dit, vous l'avez déjà, de toute façon, tous les joueurs, sauf blessure, les joueurs qui seront dans la liste, c'est ceux qui sont passés les 2 dernières années en équipe de France. Ce qui est pour un coup de coup. Voilà.
Mais quid, par exemple, d'un garçon comme Ferland Mendy, avec la blessure notamment
Ça, c'est autre chose. Ferland Mendy, c'est pas bénéficier de la liste des 26. Moi, beaucoup plus que Lacazette.
Non, mais là, il y a Lucas Hernandez qui est blessé. Plus que Lacazette.
Moi, je pense qu'il va le prendre.
Ouais, moi aussi, je pense qu'il va le prendre. Je trouverais ça incroyable qu'il le prenne pas.
Il peut ne pas le prendre et prendre Digne, hein, par exemple.
Moi, je pense qu'il va prendre Ferland Mendy.
Il fait une bonne saison.
Parce qu'il avait déjà appelé Ferland Mendy. Rappelez-vous, en début de saison, il avait déjà
pas tous ensemble. Oui,
En début de saison, il avait déjà appelé Ferland Mendy. Malheureusement, le joueur du Real Madrid s'était blessé, donc il n'avait pas pu le prendre. Mais je trouve qu'il apprécie Ferland Mendy. En plus, il trouve que c'est un joueur qui peut jouer autant à gauche qu'à droite, même si Ferland Mendy préfère à gauche. Donc je pense qu'il va prendre Ferland Mendy. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est plutôt pour devant. Parce que il y a Moussa Diaby qui fait une plutôt bonne saison avec Aston Villa.
Non, il joue pas, il est remplacé.
Il va le prendre aussi. Hein.
Ouais, mais si. Ah oui,
il n'y a que 26.
Il peut prendre Barcola, Nkunku, Moussa Diaby, Colomoigny, Thuram et Mbappé.
Coman qui revient de blessure.
Non, Coman ne viendra pas.
Ah si, Coman va venir.
Je pense que Coman il ira.
Ça sera Coman et Diaby, pas les deux alors.
Je vous parie
là, ça fait 9 attaquants alors. Coman et Diaby, pas les deux. Les gars.
Non, moi je pense que si Barcola finit bien, surtout en Ligue des Champions, il risque de remplacer Coman.
Je suis d'accord. Je pense que
ce sera plus Coman.
Parce que imagine, avec tous les blessés,
moi,
en tout cas les probables méformes, ou pas Mécano, Nkunku, tout ça, c'est pas en forme. Tu peux pas enchaîner Diaby qui manque de rythme parce qu'il est souvent remplaçant. Ça va faire beaucoup de joueurs quand même qui n'ont pas le rythme des 90, mais même Kylian Mbappé qui est davantage ménagé au niveau du Paris Saint-Germain. Moi, j'ai peur qu'on ait une équipe qui soit pas dans le rythme durant cette Euro. Les amis, à présent, quel choix pour quel résultat ? Alors, suite à la séparation entre le Stade de Reims et son entraîneur Will Steele, Habib Bey pourrait-il être le candidat idéal pour prendre la relève, les amis? J'attends vos avis sur la question.
Pour prendre la relève où, ça?
Au niveau de Reims.
En tout cas, pour ma part.
Il y a Will Steele qui est parti. On sait tous que Reims avait déjà sollicité Habib Bey jadis. Alors aujourd'hui que...
Pour Reims, je ne sais pas, mais je
Reims
pense que pour
Habib
Bey...
Reims est sans entraîneur, entre guillemets. Est-ce que Habib Bey est la personne idoine?
Pour moi, non. Pour moi, Habib Bey, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse une saison en Ligue 2 avec le Red Star. Je trouve qu'il a une saison très bonne. Hein. En national, il est champion et tout. C'est génial. Moi, je pense qu'on juge beaucoup Habib Bey, le consultant, qui est très pertinent par ailleurs. Deux saisons une saison et demie. Il était arrivé en cours de saison.
Deux ou une et demie, ouais.
Mais en tout cas, cette année-là où il arrive à avoir des vrais résultats, à les faire progresser, à les amener en Ligue 2. Pour moi, ce que je disais, c'est qu'on juge beaucoup Habib Bey, le consultant, pas assez l'entraîneur à mon goût, et qu'on devrait le laisser faire une deuxième saison en Ligue 2 pour qu'il s'habitue bien avant de vouloir aller trop pour lui, parce que pour moi, c'est pas lui rendre service, même si Il a l'air d'avoir un vrai potentiel, il a l'air de connaître le jeu. Il y a des qualités évidentes chez Habib Bey, mais pour moi, c'est un petit peu tôt. Et je pense que c'est la fausse bonne idée.
Stéphane, rapidement.
Ouais, moi, je partage tout à fait son avis. Je pense que c'est vraiment aussi pareil, une fausse bonne idée. Il faut attendre pour même dire que Habib Bey est un bon entraîneur. Il faut encore attendre un peu de temps. Quoi. C'est vrai qu'il a réussi à au Red
Laurent
Star.
Blanc, il a enchaîné Bordeaux tout de suite, hein. Pierre Sage, il débarque, l'Olympique Lyonnais n'arrête pas de monter.
Ouais, non, bah, moi, c'est mon avis, hein, maintenant, peut-être. Et en plus, je crois bien même avoir vu quelque part Jean-Pierre Caillot démentir complètement l'information qui disait que Habib Bey était annoncé du côté de Reims. Moi, je pense que la Ligue 1, c'est trop compliqué. Et c'est trop tôt. Et je veux dire, c'est juste faux. C'est un peu même agaçant parce que. Il y a le pouvoir des médias, cette espèce de qui fait qu'effectivement les médiatiques on l'entend parler. Moi, personnellement, j'aime bien le garçon. Je ne supporte pas de regarder. J'ai beaucoup de mal à regarder les matchs quand c'est lui qui les commande parce qu'il te fait une analyse technique, tactique. Regarder l'autre il rentre comme ça pour ci pour ça, c'est pas ce que j'ai envie. Mais bon. Donc, non, il parle pas de foot du tout. Non, mais t'inquiète pas que à vous. J'en ai parlé par exemple avec des commentateurs très connus de Canal, par exemple, qui me disaient oui, t'as tout à fait raison, faut effectivement le canaliser.
Il y a peut-être aussi un peu de jalousie, mais en tout cas.
Je pense pas.
Il y a un juste milieu aussi. Wenger, il disait oui tout le temps.
Mais bien sûr. Et puis après, il y a non seulement.
Jean-Pierre n'était pas plus fameux, mais.
Moi, je dis juste, il y a juste un truc important, c'est que moi, ça m'agace. Je dis pas, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si les autres, ça intéresse les autres, tant mieux.
Ton sentiment ?
Moi, je pense que c'est un bon défi. Voilà, moi je pense que c'est un bon défi. Reims en plus, tu sais que on t'attend pas forcément du côté de l'Europe, on t'attend pas forcément juste un maintien quoi. Du coup, moi je pense pour une première expérience avec une équipe de Reims que j'ai vue, je pense que Habib Bey peut maintenant je pense qu'il peut prendre le risque d'aller là-bas. Moi je pense que faut arrêter de rétrograder nos entraîneurs et leur dire non, faut qu'ils restent en Ligue 2, en National, en truc. Non, maintenant s'il se sent prêt, s'il a l'opportunité, pourquoi pas. Will Steele, il avait personne. Il n'était pas entraîneur, vous avez vu, de la réserve encore des petits.
Donc c'est un échec.
C'est pas les mêmes profils.
C'est un échec quand même. C'est un échec.
Non, pas dans l'ensemble.
Pour moi, c'est un échec.
Il y a Stéphane qui disait que Jean-Pierre Caillot avait démenti il y a quelques jours le fait que Habib Bey pourrait signer là-bas.
Ça veut rien dire.
Non, mais c'est vrai, mais il y a Foot Mercato aussi qui, par le biais de Seb Nonda, qui a annoncé cette journée qu'une rencontre a bien eu lieu entre les deux il y a quelques jours. Donc il y a moyen qu'il aille là-bas. Et moi, je lui souhaite en tout cas à Habib Bey d'aller au stade. Je pense que c'est la parfaite succession à Will Steele. Je trouve que c'est une équipe qui fait très bien jouer ses équipes. Je sais pas si vous avez vu un peu le Red Star cette saison, mais ça, à part là sur cette fin de saison où ils ont tout lâché parce que
jamais vu Red Star.
Mais je pense qu'il a une bonne philosophie. Je trouve que on le réduit beaucoup à l'homme qu'il est, à la manière dont il parle, parce que c'est vrai qu'il parle très bien, qu'il est très, comme tu le disais, dans les tactiques, etc., et que c'est agaçant. Mais en tout cas, ce qu'il dit à l'oral, il arrive à l'appliquer sur un terrain de football. Et moi, j'ai envie de voir ça hein, au niveau, quitte à ce qu'il se casse la gueule, quitte à ce qu'il se tombe et qu'il se fasse mal. Mais j'espère pour lui et pour le stade de Reims que ça se fera.
Premier ministre, tu clôt.
Non, mais moi je suis d'accord avec le débat. Je suis d'accord avec Stéphane et Lucas, pour moi c'est trop tôt. Trop tôt, le gars ça fait un an et demi qu'il aurait.
Pourquoi vous êtes frileux comme ça,
non,
les amis?
Non,
la continuité c'est bien
au contraire,
aussi.
Au contraire,
c'est ce qui fait que nos entraîneurs ils restent.
Et
ici,
voilà, c'est là
que
tu te trompes. Au contraire,
non, c'est
très bien que tu fasses grillaison, tu restes au Red Star,
mais tu apprends en échouant.
Il a raison, Thierry Henry s'est grillé comme ça.
Tu restes au Red Star, tu fais une bonne saison.
Là, Steele il va aller en Angleterre, tu vas voir ce qu'il va faire.
On va voir.
Si tu veux, on verra bien, mais peu importe. Laisse-moi terminer.
On laisse Alex finir.
Pour moi, c'est trop tôt. Il n'y a pas le feu. Autant attendre qu'il fasse une saison Red Star, voir comment ça donne. Gérer un vestiaire en national, c'est pas la même chose que gérer un vestiaire en Ligue 1 avec toute la pression, avec les réunions avec le directeur sportif, tous les enjeux qu'il y a, c'est totalement différent. Donc laissons Habib Bey là où il est tranquille. Il va profiter de son été. Il reprendra la Ligue 2 en juillet. Ça va être très bien, mais le mettre directement dans l'étape au-dessus, alors que ça fait même pas un an, même pas six mois vraiment qu'on parle de lui en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur, je parle.
Ça fait deux ans déjà.
Non, mais en tant qu'entraîneur,
il y a des raisons. Les amis, Roland, c'est pas on a fini.
Pour moi, c'est trop tôt et laissons Habib Bey.
Juste dernier mot pour dire qu'il y a quand même un grand, excusez-moi, toujours, je pense, à nos amis auditeurs, un grand manque de respect, par exemple, quand même pour Reims. Parce que Reims n'est pas du tout une équipe qui va attaquer la saison en disant on joue le maintien. Reims l'a dit en début de saison, c'est pour ça que je dis que c'est un échec, Will Steele, a dit que cette année, il visait l'Europe. ils visaient les 6-7 premières places. Ils vont terminer, là ils sont 11e ou 12e, ils vont terminer 10e. C'est un échec qu'il a eu. Et puis il ne faut pas comparer un ancien adjoint qui est mis en place parce qu'on a viré l'entraîneur, ça marche bien, on le garde, il prend confiance et tout, avec un entraîneur qui vient d'un niveau beaucoup plus bas et qui monte. Moi, c'est mon avis. Maintenant, il peut réussir, c'est peut-être un génie à Bibay, mais je ne vois pas pourquoi. Ah, il ne va pas aller à l'OM, c'est trop compliqué et tout, mais par contre, il peut faire Reims, c'est un joueur qui vaut le maintien. Je suis désolé, je trouve, c'est manque de respect. Reims vise les 6-7 premières places, comme il les visait, c'est là. Et il a eu un échec, c'est un échec.
C'est ce qu'ils ont dit, hein, sur tu vois, l'effectif,
merci,
ils ont des
les
bons
amis,
joueurs et tout.
D'avoir été présent aujourd'hui dans cette émission de Foot. C'est on va remercier Jason Lindor qui réalisait cette émission ainsi que Kali. Merci Lucas, merci Abou, Alex, merci beaucoup. Stéphane, le quotidien du sport.fr, allez-y, le consulter via les réseaux. Aladj, merci à toi. On se donne rendez-vous lundi prochain dès 20h30 en direct sur monparisfm.com. Salut.
Salut.